在最妙的正确上，也是自己的可以做到差异的。但是那是你的爱自己，人也不能做到的事，是但是那是要了解的死亡。
Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire,
priez pour nous.
Notre-Dame de la Paix,
priez pour nous.
Alors j'ai quelques questions, et c'est bien, il faut toujours commencer par les questions. Alors, il y a beaucoup de questions, hein. Si vous avez des questions par oral, vous... Ah, tu es là, Vincent, c'est bien. Oui, ta sœur aussi. Qu'est-ce que la philosophie analytique? Je vous lis la question, ça c'est très bien. L'expérience intérieure de l'âme, qu'apporte-t-elle? Oui, ça c'est par rapport à ce qu'on avait vu, je pense, samedi, il y a un mois, on avait regardé la montée de l'expérience intérieure et la différence qu'il y a entre la montée de l'expérience intérieure lorsqu'on essaie de s'engloutir à l'intérieur de son intériorité pour atteindre le point de vue de l'âme et dans le point de vue de l'âme, de cette lumière qui actue le diaphane intérieur. On va reprendre ça, l'expérience intérieure de l'âme. En plus, qu'on m'a posé encore la question plusieurs fois cette semaine, je ne comprends rien à cette histoire d'intériorité. Alors, on va reprendre ça. C'est important de voir les deux grandes voies, qui sont des deux, c'est du très grand classique, ça. En philosophie, pour ceux qui font de la philosophie dans des écoles spécialisées, ça, eh bien, vous avez la philosophie. Dans toute l'histoire de la philosophie, vous avez la philosophie du même et la philosophie de l'autre. La philosophie du même, c'est la philosophie de moi-même, si vous voulez, hein, le même, hein, M-E-M-E, c'est pas avec un accent circonflexe, la philosophie du même. Bon, en général, on caractérise, on met le grand titre pour la philosophie du même avec Platon. Parce que les premiers grands philosophes, c'était des Grecs. Et Platon, c'était un disciple de Socrate. Et Socrate, rappelez-vous que Socrate est à peu près contemporain de Bouddha. C'est quand même très intéressant. À peu près, 399, hein, avant Jésus-Christ. Et l'élève de Socrate, un des élèves de Socrate, est grâce à qui? Du reste, on a toutes les pensées de Socrate, enfin, un certain nombre de pensées de Socrate, c'est Platon. Et Platon, c'est vraiment la philosophie de du même. Et puis, parmi les disciples de Platon, il va y avoir un petit garçon très intelligent qui s'appelle Aristote. C'est un élève, c'est marrant de voir, tu vois, ce qui s'énerve dans le temps. Et Aristote, lui, il va dire, mais la vérité, c'est pas du tout en nous qu'on trouve la vérité, c'est on la trouve dans le réel. La vérité, c'est pas toi qui l'as fait. La vérité, elle existe, elle est là. C'est l'autre. Et c'est pour ça que le premier à faire la philosophie de l'amour, c'est Aristote. Parce que si tu restes réfugié à l'intérieur de toi, tu ne sauras jamais ce que c'est que l'amour. L'amour ne se mesure pas à ce que tu en ressens. Et si tu as l'impression de haïr Dieu, par exemple, ce n'est qu'une impression. L'amour ne se mesure pas à ce qu'on en ressent. L'amour se mesure aux actes. L'amour se mesure par rapport au point de vue de la réalité. Donc, vous voyez, même déjà en philosophie, vous avez deux grands actes. Alors, vous voyez, au terme, 20e siècle, c'est pour faire un résumé prodigieux, la sagesse philosophique, vous avez quelqu'un qui s'appelle Heidegger, qui est un espèce de philosophe allemand, enfin, je suisse, ou allemand suisse, ça ne touche pas. Et qui dit ceci, je le dis parce que je crois que c'est très vrai, et pratiquement toute la philosophie occidentale, c'est-à-dire la philosophie dont nous sommes imprégnés, dont nos monuments sont imprégnés, dont nos symboles sont imprégnés, dont nos pensées et nos chaînes mentaux sont imprégnés, toute la philosophie occidentale, c'est une clause marginale de Platon. Là, c'est ce que dit Heidegger. Vous allez me dire, bon, s'il démarre comme ça dès les 5 premières minutes, cet après-midi, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, donc, vous voyez, mais c'est ça pour vous dire pourquoi est-ce que je vous dis ça, c'est pas pour vous faire perdre du temps, c'est parce que vous voyez, Platon, lui, il inaugure une manière de regarder l'homme, une manière de regarder la vérité, une manière de regarder la vie, une manière de regarder ce qui est essentiel, ce qui est substantiel, à partir du même, c'est-à-dire à partir de ses idées. C'est l'idée pour Platon qui est première. Vous connaissez quand même, j'espère, le mythe de la caverne, par exemple. Vous voyez bien, le mythe de la caverne de Platon, vous avez des espèces de bonshommes qui sont enchaînés dans cette caverne très très noire, très très sombre. Et puis, ils ont le dos tourné. L'ouverture est derrière, ils sont dans une grotte, ils sont face à une espèce de mur. Et cette espèce de mur, de temps en temps, ils perçoivent quelques ombres. Et ils croient que la vérité, c'est ce qu'ils voient. Ils pensent, voilà, telle est la condition de l'homme d'après Platon. Vous croyez que ce que vous regardez là, en regardant les phares, en regardant l'univers, en regardant l'autre qui est à côté de vous, vous croyez que ce sont des réalités. Mais non, ce ne sont que des ombres. Voilà. La réalité que ouais, l'homme qui est sur la terre, c'est ça. La connaissance le trompe. Donc, ne vous appuyez pas sur le réel que vous voyez, si vous voulez voir la vérité. Revenez dans votre intelligence pour réfléchir qu'est-ce que c'est que la réalité en fait. Ce que vous voyez, ce n'est que l'ombre, la manifestation à partir d'obstacles divers qui sont derrière vous et que la lumière qui vient de l'ouverture de la croix et frapper sur le mur qui est en face de vous. J'espère que vous comprenez la petite comparaison que fait Platon. Alors du coup, eh bien, le philosophe, c'est celui qui arrive à se laisser déchaîner, à sortir justement de la grotte, et à se rendre compte que c'est la lumière de la grotte qui, en frappant sur son dos, sur le dos de ses copains, produit ses ombres sur le mur. Mais la réalité, elle vient en fait... d'ailleurs, donc les réalités que nous voyons viennent d'une réalité autre. Il suffit simplement de voir quelle est la source de la lumière. Et celle-ci, vous voyez, et à chaque fois que vous découvrez cette lumière, vous voyez que la lumière n'est elle-même pas une réalité. Cette lumière que vous voyez en vous retournant dans la grotte, cette lumière n'est pas une réalité, puisque quand vous sortez, cette lumière n'existe pas. Tout le diaphane est éclairé. Et vous voyez que la véritable lumière, c'est le soleil. Et puis à partir du soleil, vous vous apercevez que le soleil n'est pas vraiment non plus c'est une lumière, ce qui réfère à une lumière qui est encore plus élevée. Et puis vous allez comme ça, de plus en plus haut, et vous vous rendez compte que la seule réalité, c'est l'idée de lumière. Il y a une idée en soi de lumière. Et cette idée, plus moins elle est vraie, plus elle va se dégrader dans la matière. Ça, c'est la philosophie du même. On va retrouver effectivement dans toutes nos pensées occidentales. Vous voyez, regardez comme par exemple, quand on a des phrases de Sartre, par exemple, qui dit que l'homme n'est qu'une illusion, ça se réfère immédiatement à Sartre. Mais toute la pensée occidentale, c'est un petit peu ça. Lorsque vous voyez quelqu'un qui veut être intelligent, alors immédiatement il se réfugie, mais alors comme un imbécile, sur. Je m'excuse, non pas comme un imbécile. Ceux qui sont vexés, qui sont là. Ça, c'est pas mal d'études sur la critique, sur la relativisation de ce qu'ils constatent. Oui. Et donc sur des choses qui sont, d'analyser, de relativiser, de trouver une explication, soi-disant plus profonde, philosophie analytique. L'analyse. Et je pense que ce que j'ai trouvé comme clé d'analyse est plus intelligent
que la réalité que je vois.
De cette manière-là, je vais vous donner un exemple pour la philosophie de l'anti-philosophie génétique. C'est comme ça que personnellement j'appelle les philosophies que vous avez, par exemple, dans les bouquins de Lacan, de Reich, de Freud, de Jung, etc. D'accord, hein, c'est essentiellement à base de psychologie, hein, de psychanalyse. Alors, que ce soit la psychanalyse un peu grossière de Freud ou les autres psychanalyses à base de symboles, ça ne fait rien. C'est toujours une analyse. Tu vois? Alors, si par exemple, tu vis avec quelqu'un, hein, suppose par exemple, tu sois, ton père et ta mère sont mariés, bon, ils vivent ensemble. Bon. Et si par malheur, il y en a un des deux, tu vois, qui est imprégné de philosophie analytique, ben, quand il va se retrouver face à son conjoint, au lieu de recevoir son conjoint tel qu'il est, c'est-à-dire d'une manière contemplative, eh bien, il va le recevoir par, à travers le crime de la philosophie analytique. Il va dire, oh là là, oui, s'il est comme ça, s'il a réagi comme ça, c'est parce qu'il a été traumatisé par sa mère, quand sa mère lui avait dit si, là, qu'il avait 15 ans, etc. Et donc, au lieu de le recevoir tel qu'il est, il va le recevoir en fonction de crime analytique, et finalement, il va le recevoir uniquement au plan psychologique. Le recevant au plan psychologique, il ne peut plus avoir de relation humaine avec lui. Ce sera une relation psychologique, ce sera pas une relation humaine. Il croira être intelligent et en fait il sera affaissé dans le point de vue psychologique. Si vous voulez connaître quelqu'un réellement, il faut le contempler. Si vous le contemplez, vous ouvrez très grand vos yeux. Avec, en même temps, la lumière de l'attention. Très extraordinaire, la lumière de l'attention. La lumière de l'attention. Et vous vous apercevez que si vous, vous existez et qu'il y a quelque chose en vous et qui vous dépasse par rapport à vous-même, quand vous touchez l'autre qui est là, vous voyez qu'à travers, je vais dire, lui, vous touchez le fait qu'il existe et que cet être a quelque chose de grand, de plus grand que vous. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez le connaître. Et plus vous le connaissez, plus vous découvrez qu'il y a quelque chose d'immense à travers lui, derrière lui, que vous ne pouvez pas étreindre. Vous pouvez l'étreindre, oui, mais uniquement en le contemplant. Parce que quand vous contemplez quelqu'un, alors à ce moment-là, vous l'assimilez. Et il est présent en vous. Mais vous l'avez respecté. C'est la différence, justement, de la vie contemplative avec la contemplation analytique. Puisque la contemplation analytique, c'est celle du psychologue. Qui dit, ah, il dit ça, ah, il a tel comportement, ah, il a dit qu'il est ici, ah, etc. Donc, j'analyse. Et je l'aime tel qu'il est. Ah. Pas la contemplation, parce que du coup, quand je le porte en moi, celui qui est là, ici, à côté de moi, ou en face de moi, si je le porte en moi de cette manière, et bien je le porte en l'ayant réduit à ma philosophie analytique. Or, si je prends Freud, par exemple, il réduit l'autre à un complexe de castration. Alors, tu le portes en toi, et tu vois que je crois que tu ici, et comme ça, tu l'aimes tel qu'il est, oui. Mais tu le vois, de fond, tu ne le respectes pas. Tel que tu portes en toi, tu ne le respectes pas. Parce que tu l'as réduit à un complexe de castration. Je suis vraiment vieux. Oui. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Ça, c'est. J'ai le dire. Pour la philosophie analytique, donc tu vois, c'est toutes les manières de regarder l'être humain à travers des idéologies qui sont, disons, à base de psychanalyse. Hein. Enfin, je pensais ça. Donc je réduis l'autre à des schémas d'analyse, de compréhension, et je réduis à ce que j'en comprends. Si je le réduis à ce que j'en comprends et que c'est comme ça que je l'aime, et je le porte en moi, ça ne m'empêche pas d'aller vivre la bonne relation affective avec lui, eh bien à ce moment-là, je ne le respecte pas. Je ne le respecte que si j'ai une intelligence contemplative. Alors à ce moment-là, oui, je le connais, il a des limites, c'est absolument évident. Mais je ne m'attache pas à ses limites, ce que je regarde en lui, c'est le mystère de la personne et j'essaye de le recevoir dans toute sa grandeur, dans toute cette espèce d'extraordinaire amplitude que je ne peux pas étreindre et que je respecte.
Je m'excuse. Depuis longtemps que tu as compris ça. Si ça fait longtemps pour moi.
Ça fait longtemps que moi, j'ai compris ça.
Parce que c'est très réduisant. C'est une ordre, si tu
veux. Oui, oui, oui.
C'est une image spéciale.
C'est vrai que faire la différence entre la philosophie du même et la philosophie de l'autre, c'est comme faire A, 2, 2, A, et puis faire bas. C'est le début de l'intelligence, peut-être, c'est de faire la différence qu'il y a entre l'être et la vie. Personnellement, j'ai essayé de comprendre les choses presque à plein temps, à partir du moment où j'ai eu 17 ans. Mais j'avoue que je n'ai pas réussi trop à sortir des pensées analytiques jusqu'à l'âge de 27 ans. Donc pendant 10 ans, je n'ai pas touché dans les idéologies modernes, mais ce n'était pas faute de chercher. Et aujourd'hui, j'en ai 42. Alors, ça fait calculer. Mais à partir du moment où effectivement, on m'a dévoilé un petit peu ce principe tout simple, à partir du moment où on me l'a dévoilé, tout en s'en faire l'expérience, bien entendu, parce qu'il ne suffit pas de le dévoiler, il faut aussi après faire des exercices pour retrouver la santé de l'intelligence, d'une intelligence qui soit humaine, que ce soit une intelligence analytique. L'intelligence analytique, c'est très simple, elle prend des critères, et en fonction de ces critères, elle réduit la réalité à ces critères. Donc un robot peut le faire. Et c'est pour ça que la pensée et l'intelligence moderne, l'intelligence que nous voyons, que nous subissons, tu vois, est une intelligence où les gens, au fond, s'engouffrent d'une manière invraisemblable, si vous voulez, dans toutes les pensées qui vont être des pensées symboliques. C'est ça qui est extraordinaire. Vous voyez, les gnoses, toutes les gnoses initiatiques, c'est extraordinaire de voir ça. Comment aujourd'hui, et justement, ce que je vous ai déjà dit, avec l'histoire de nouvelles spiritualités, la nouvelle spiritualité qui s'introduit dans l'Église chrétienne, dans l'Église de Jésus, mais aussi dans la grande culture occidentale, et aussi dans la grande culture orientale, c'est un gouffre dans la pensée symbolique. La pensée symbolique, c'est la philosophie du même. C'est pas du tout la philosophie de l'ordre. Que disait Jésus, à mon retour, l'amour se sera refroidi dans la multitude. Et si l'amour se refroidit dans la multitude, ça veut dire qu'au niveau de la contemplation, c'est pas parce que les hommes ne veulent plus aimer. Tous les hommes veulent aimer. Tous. Mais il se peut qu'ils arrivent à un stade où ils ne peuvent plus aimer. Parce que leur schéma spirituel, leurs habitudes mentales, leur habitus d'intelligence ne sont plus contemplatifs. Et par conséquent, ils ne peuvent plus. Il faut que ce soit vraiment l'autre. Tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu le ramènes à toi. C'est assez simple à comprendre. Et c'est ce que dit au fond, ce que vous a dit le Saint-Père à Chesterkoffer, c'est-à-dire que le combat que vous devez mener, si vous voulez rester dans l'amour à l'aube du troisième millénaire, si vous voulez garder et rester dans le christianisme et dans la foi, n'ayez aucune hésitation à penser que c'est en reformant une intelligence déformée par la tête, n'est-ce pas ? Et vous commencez par dire « Je suis, j'existe. » C'est la différence entre l'être et la vie. Donc voilà, deuxième question. Ceci, l'expérience intérieure de l'âme, qu'apporte-t-elle ? Alors, je vais vous lire quelques petites questions, puis peut-être qu'elles se recoupent un petit peu toutes, hein, justement. Quelle différence y a-t-il entre ceci est et ceci existe ? Ça, c'est très joli comme question.
Tu dirais, toi.
Quelle différence y a-t-il entre ceci
et ceci
existe?
Qu'est-ce que tu dirais, toi? Toi, tu connais la physique, tu as la fibre.
Ah, hein, tu sais pas? On va voir ça. La philosophie de l'expérience intérieure, l'inspiration, l'intuition. L'expérience interne, l'expérience externe, l'expérience de la conscience. Qu'est-ce que la métaphysique? Qu'est-ce que la philosophie du possible? Qu'est-ce que le monde intentionnel? Qu'est-ce que l'induction? Qu'est-ce que l'être? Pourquoi y a-t-il de l'être et non pas rien?
Ah, ça, hein?
Ça, c'est pas mal. L'homme dans son devenir. Est-ce que la dimension artistique de l'homme est-elle quelque chose d'utile? Hein, c'est ça. Est-ce que c'est utile, la dimension artistique? Puisqu'on se fout dedans pas mal avec la dimension artistique. Alors, si on pouvait le chanter un peu. Ou alors, est-ce que c'est utile? C'est pas mal, ça aussi, cette question. Bon, bah, écoutez, alors là, hein, franchement, je sais pas si je vais pouvoir répondre à tout ça. Hein. Alors, il y en a d'autres encore, parce que ça continue. Hein. Ça continue. Au fond, ça reprend au fond ce que nous avons dit la dernière fois. Alors, on va. L'amour est extatique. Pourquoi l'amour est-il extatique? On voit bien que l'intelligence et le langage humain ne peuvent jamais vraiment dire ce qu'est l'amour, pourquoi. Et y a-t-il un absolu dans l'amour d'amitié? Bon. Je sens que je prenne le temps.
Je
ne
vais pas pouvoir récapituler tout ça. J'espère que je vais trouver.
Ah, le feuillon.
Ça va.
Alors, reprenons. Vous avez nous avons vu, je crois, la fois encore précédente, il y a deux mois, nous avons vu la différence qu'il y a dans notre vie intérieure entre la montée de l'intériorité artistique et la montée de l'intériorité affective. Autrement dit, je peux très bien, face à moi-même, philosophie du même, face à l'autre, philosophie de l'autre. Philosophie de l'autre, c'est la vérité, hein, le réalisme. Philosophie du même, c'est l'idée. Donc, face à moi-même, ou face à l'autre, je peux porter intérieurement et moi-même, et mes idées, et je peux porter aussi ma relation à l'autre, ça peut être la création, ça peut être un chien, ça peut être un ami, ça peut être Dieu, vous voyez, dans une intériorité. Mais il y a différentes voies d'intériorité. Donc on a vu quatre voies d'intériorité, les fois précédentes. Vous vous en rappelez ou pas? On a analysé il y a deux mois l'intériorité, la montée particulière des lois qui font que intérieurement, notre cœur s'intériorise dans l'amour, et c'est pas du tout la même type d'intériorité que l'artiste quand il se réveille comme artiste. C'est toute une intériorisation vers la beauté, la pureté de la beauté, vers qui répond, s'il vous plaît, à une autre loi. C'est une vraie intériorisation. C'est vraiment à chaque fois humain. Mais ce n'est pas du tout le même processus d'intériorité. Et donc, la dernière fois, je vous avais regardé ensemble l'intériorité. Une troisième type d'intériorité, c'était l'intériorité de l'âme. Vous voyez, l'intériorité de l'âme. L'âme. C'est ce que je prononce mal, mais l'âme. L'intériorité de l'âme. L'âme, c'est quelque chose de particulier aussi. Il faut savoir
rentrer sans l'outil de plus en plus profondément dans l'intimité profonde de vous-même pour pouvoir atteindre précisément cette source de lumière. Vous sentez bien que c'est tout à fait, nous l'avons vu donc la dernière fois, à quel point c'est différent, mais je vais le reprendre puisque la question est là. Et nous avons encore dit l'intériorité contemplative. L'intériorité contemplative est encore un quatrième type d'intériorité. Donc nous avons en nous quatre manières différentes de nous regarder, de nous contempler, si vous voulez, de nous porter nous-mêmes ou de porter celui qui est à côté de nous, celui que nous aimons. Et quelquefois on croit que parce qu'on porte très 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 fort quelqu'un, on croit qu'on l'aime. Et non, peut-être que tu ne fais que le contempler. Peut-être que justement tu ne fais que t'incorporer à cette espèce de source vivante qui est l'âme qui est en lui. Ou peut-être que tu n'as qu'une relation simplement artistique. Peut-être que tu es séduit. C'est peut-être pas une interview. Il faut donc savoir reconnaître ces quatre types d'intériorité en nous. Et il faut les harmoniser et il faut être lucide. Donc c'est pour ça que je vous ai fait les quatre intériorités. Alors, on va donc normalement, puisque vous étiez là, vous savez maintenant parfaitement reconnaître ces quatre grandes types d'intériorité. Bon, on va reprendre. Bon, je veux bien revenir dessus. Donc, on revient dessus pour récapituler. Ça vous paraît utile?
Oui, oui.
On passe par un autre chapitre. Alors, on prend celui-là. Bon. Bon, pour ceux qui n'ont pas le tableau à cette colonne, il est là. Les quatre types d'intériorité. Vous avez, non pas les quatre, là, mais vous avez trois d'intériorité. Hein. Qu'est-ce qu'il n'a pas? Celui qui ne l'a pas, il peut le faire. Il est tout à fait en bas. Il n'y a pas d'intériorité contemplative. C'est le cadre d'en bas. Hein. Rapidement, sans reprendre ici le tableau qui est en bas, mais je vous ai déjà dit rapidement, je crois que c'était il y a deux mois, l'intériorité de l'âme. Je crois que c'était l'intériorité de l'âme, sauf erreur, je ne sais plus. Enfin, peu importe. L'intériorité de l'âme, c'est très simple. Pour arriver à voir où se situe l'intériorité de l'âme. Si vous êtes dans le bouddhisme, par exemple, hein, je vous ai déjà dit, dans le bouddhisme, on s'investit à fond là-dedans. Mais nous aussi, on n'est pas du tout à refuser du tout d'être très intérieur du point de vue de la lumière, d'être des êtres qui rayonnent de lumière. Oh là là, que tu es rempli d'amour, regarde comme il rayonne de lumière. Mais non, il est tout simplement intérieur. Il a une intériorité, il a une vie intérieure. Quelqu'un qui a bien en main sa vie dans ses profondeurs rayonne de lumière. Un visage rayonnant. Qu'un visage qui est rayonnant, c'est pas du tout nécessairement quelqu'un qui erre. Et c'est pas non plus quelqu'un qui est contemplatif. Pas nécessairement. C'est très bien d'aimer avec cette intériorité très profonde. Très très bien. Il faut harmoniser justement la vie humaine consiste, si vous voulez qu'intérieurement votre humanité soit très 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 merveilleuse, il faut que ces quatre points de vue soient présents et harmonisés ensemble. Harmonisés. Mais si vous mettez toutes vos billes sur un, aïe aïe aïe. Vous risquez de faire comme une balle qui coupe un pied. C'est mental, quoi. S'il n'y a qu'un seul pied, je ne sais pas si tu vois, comme ça tienne. Hein. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour que ça ne se casse pas la gueule. Donc, voyez bien, alors, repérez où se trouve l'intériorité de l'âme, enfin, ce que j'appelle l'intériorité de l'âme. Ok. aujourd'hui, je crois que c'est très, 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 très important de voir ça, puisque vous savez bien que le grand attaque de l'Antéchrist, qui sera l'attaque finale, portera sur l'intériorité de l'âme. Ou si vous préférez, elle porte actuellement sur l'intériorité de l'âme. La fameuse doctrine des énergies, n'est-ce pas, qui va, les fameuses énergies, n'est-ce pas, niveau et tout ça, bon, eh bien, c'est essentiellement là-dessus, n'est-ce pas, c'est d'arriver à avoir une très très grande intériorité, mais dans une judicieuse organisation interne, pour que ce soit coupé de la contemplation, donc de la recherche de la vérité, et que ce soit également coupé de l'amour dans son sommet. Ce sera coupé de l'amour dans ses bases inférieures, notamment la compassion, la bonté, seront éminemment présentes dans une intériorité de ses énergies. Et l'amour dans son sommet, évidemment, sera totalement coupé. C'est ça, le génie de l'Antéchrist, c'est de faire quelque chose de très, très, très extraordinaire, à la fois au point de vue vital, au point de vue lumière, de compassion, au point de vue bonté, au point de vue unité et au point de vue symbolique. Donc, retirons bien où se trouve l'intériorité. Je vous le fais de suite, je vous ai déjà demandé de le faire plusieurs fois. Essayez d'apprendre ça à vos petits frères, à vos petites sœurs, n'est-ce pas ? Nos petits enfants, vous avez au catéchisme, etc. N'est-ce pas ? Essayez de leur faire faire les premières oraisons, vous voyez, c'est ça. Essayez de leur faire fermer les yeux. Et qu'en fermant les yeux, ils essayent de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de leur corps. Et qu'ils essayent d'habiter leur corps de l'intérieur. Bon, alors là, vous voyez tout de suite qu'à ce moment-là, il y a tout un monde à l'intérieur. Est un monde de vie, la vie, quoi, là-dedans. C'est pas compliqué, ça, je pense. C'est pas compliqué du tout. Et c'est pas compliqué, hein. Mais quand même, je peux quand même aussi aller un tout petit peu plus profond que ça. Vous voyez bien. Alors, je m'aperçois, effectivement, qu'à l'intérieur de moi, j'ai tout un bouillonnement de vie. Il y a une effervescence, enfin, vraiment, il y a quelque chose de... C'est pas brûlant, mais pas assez chaud, il y a une petite chaleur, il y a quelque chose de vivant. J'essaie de rentrer tout dedans, ça. Vous voyez ça? J'essaie de rentrer dedans. Vous voyez, dans la première colonne, hein, disposition. Hein. Disposition, c'est-à-dire la vie intérieure de l'âme, la qualité fondamentale. Si je suis dans le premier état, dans la porte de l'intériorité, je rentre dans la diathèse, c'est-à-dire dans la disposition. C'est-à-dire, je rentre dans cette espèce de disposition interne de l'âme qui fait que je vois, j'ai des capacités de mouvement quasi infinies. Je peux mouvoir dans le point de vue de l'angoisse, dans le point de vue psychologique, dans le point de vue passionnel, dans le point de vue spirituel, dans le point de vue organique, dans le point de vue cérébral, dans le point de vue mental. Et tout ça à la fois, c'est extraordinaire. J'ai des dispositions dans toutes les directions. Et elles sont à l'intérieur de moi. Et disposition de mouvement, je suis capable de me mouvoir moi-même. Et c'est de l'intérieur que je puisse habiter. Il y a toutes ces dispositions de l'intérieur, il y a toute une foule de dispositions vitales en moi. Alors, deuxième étape, il y a dans la deuxième étape, si vous voulez, quelque chose qui se noue. C'est-à-dire, je me rends compte qu'il y a, un peu comme dans un tableau, si vous voulez, de Picasso ou dans un tableau de Salvador Dali, et vous apercevez toutes ces grouillements de vie, il y a quand même tout un panaché, mais il y a aussi toutes sortes de connexions internes, ça se croise, ça grouille, et en même temps ça croise. Il y a quelque chose qui est beau, il y a quelque chose qui est beau. Pas encore l'unité, si vous voulez, mais il y a quand même, ça fait quand même un tout. C'est pas une superposition de dispositions d'intérieur. Ça fait un tout. Et cet ensemble-là fait qu'il y a quelque chose de beau dans cette vie. Tout de suite, vous sentez que c'est beau, ça. D'ailleurs, faites faire ça à un enfant. Vous verrez, c'est très beau de voir ça. Faites faire ça à un enfant et vous verrez que l'enfant est... fait, du Père, par exemple, apprenez-lui à prier intérieurement. Puisque vous voyez, nous, notre but, par rapport à un enfant, c'est d'apprendre à un enfant, puisqu'il a la grâce de Dieu, et que la grâce de Dieu, c'est une vie, c'est une lumière vivante qui est dans l'intériorité de l'âme. Donc la prière qu'on fait prier un enfant par cette voie d'accès-là, celle-là, n'est-ce pas ? Pas contemplative ni mauvaise, mais celle-là, et bien, à ce moment-là, vous lui fermez les yeux et regarde à l'intérieur de ton âme, il y a la lumière vivante de la grâce. Et Jésus est avec vous dans ce berceau-là. Alors, vous allez vous rendre compte que très vite, il va vous dire, il va éprouver, même si vous ne le dites pas, qu'il y a quelque chose de bon. Très vite. Il ferme les yeux, première étape, il y a quelque chose qui vit. Puis tout de suite après, quelque chose de bon. J'ai toujours une petite fille qui est venue à l'église, et puis tout de suite elle est sortie, elle m'a dit, 6 ans, c'était la première ou deuxième fois qu'elle était dans une église, c'était pas du tout croyante, sa famille, elle a dit, j'ai fermé les yeux, et dans mon ventre, à l'intérieur, j'ai vu qu'il y avait une espèce de torrent de lumière qui ressemblait à de l'argent. J'ai trouvé ça beau. On sent qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose de lumineux, si vous voulez, et de beau, qui fait l'unité de toutes ces puissances de disposition vitale. Voyez. Ensuite, vous avez du coup, vous essayez quand même d'aller un petit peu plus loin, bien entendu, n'est-ce pas, dans le point de vue de l'âme. La beauté n'est pas du tout caractéristique, de l'intériorité de l'âme. L'intériorité de l'âme, c'est qu'il faut arriver à trouver quelque chose de beaucoup plus central, de beaucoup plus profond. Bon, il existe de sagesse. Alors à ce moment-là, vous vous rendez compte que si cette vie est là, il y a quelque chose dans cette vie à l'intérieur de vous de très intime qui vous porte à quelque chose d'autre que vous-même. À faire tout de suite. Hein. Et en même temps, qui ne fait pas immédiatement, c'est un appel. Le beau, vous voyez, c'est comme on dit que saint Thomas d'Aquin, par exemple, il dit que la beauté est une disposition au mariage. C'est joli, ça. C'est joli, parce que si vous voyez quelqu'un qui est moche comme tout, il dit, tiens, il est fait pour être un putain. La beauté, c'est une disposition au mariage. Vous voyez, la beauté, si vous allez plus loin que la beauté, vous touchez la finalité. Mais c'est une finalité dans l'ordre de la vie. Votre vie est structurée dans toute cette diversité dans laquelle vous avez pénétré, vous êtes englouti. Vous voyez que ce mouvement de l'intériorité de l'âme est un mouvement où vous engloutissez progressivement de plus en plus à l'intime de vous-même. Et donc vous voyez qu'effectivement il y a une finalité, un appel. Et ça vous réveille, j'allais dire, pour pouvoir rentrer dans quelque chose, vous voyez, qui relève tout à fait, cette fois-ci, de la vie la plus profonde de toutes ces portions de vie qui sont en vous, et c'est la vie de l'intelligence. La vie de l'intelligence en vous est vivante. L'intelligence en vous est capable d'aller plus loin que cette sensation que vous éprouvez quand vous, dans votre vie, vous voyez que vous n'êtes pas dimensionné par rapport à vous-même, pourtant vous êtes englouti uniquement en vous-même. Vous allez un petit peu plus loin et vous apercevez qu'au fond, cette intériorité, toutes ces petites intériorités sont des émanations de quelque chose qui relève de la lumière, de l'intelligence. Et vous voyez, c'est quand même très curieux parce qu'on retrouve beaucoup Platon, hein. Mais Platon, c'est pour ça que Platon, vous voyez, ramène tout à quelque chose de plus en plus immatériel. Et plus vous allez dans la vérité de votre intériorité, plus vous rentrez dans l'immatériel. C'est pour ça que Platon, c'est uniquement la vérité. Ça, vous voyez, c'est vraiment la subjectivité transcendantale. Et l'Antéchrist, ce sera aussi pareil. L'hypnose, c'est pareil. L'hypnose, c'est à partir des symboles, de l'intériorité. Par une espèce d'initiation,
phénomène initiatique
individuel, collectif, quelquefois, ça dépend. Voilà. Parce qu'il y a vérification de la collectivité. Bon, en tout cas, vous vous apercevez que c'est quelque chose qui est de la lumière. Ça, c'est facile. Hein. Je suppose que si vous vous habituez à vous intérioriser comme ça, vous allez vous rendre compte que vous pouvez de plus en plus rentrer dans une lumière de plus en plus pure. Hein. C'est pas vrai? Ne me dites pas que vous savez que vous ne... Ne, écoutez, ne me dites pas que vous n'y arrivez pas à faire ça. C'est élémentaire. Mais n'importe qui peut le faire en 30 secondes, ça. Non ! Annie, dis-moi ! Écoute, c'est difficile ce que je vous explique là ? Je trouve pas ça difficile.
Non, c'est
pas
difficile à comprendre, mais c'est difficile à réaliser.
Mais si, très facile à réaliser ! C'est parce que je suis compliqué quand je vous explique, mais sinon, tu rentres à l'intérieur de toi, puis tu aperçois que c'est du mine, il y a quelque chose qui est pur, si tu veux, dans l'intériorité. Plus tu t'enfonces dans l'intime de ton intériorité, plus c'est pur, plus c'est lumineux. Il y a quelque chose de transparent à un moment donné, tu vois. Ton intelligence, tu aperçois que c'est de la lumière. Ça va? Bon, lorsque tu peux t'engloutir dans cette lumière, parce que vous voyez, l'intériorité, c'est sans arrêt une dialectique, une descente dialectique dans quelque chose qui est de plus en plus lumière. Vous voyez, cinquième stade, la prudence. Alors je passe parce que, ici, oui, parce que cette lumière te met immédiatement en contact avec tous les autres rayonnements qui sont autour de toi. C'est un conditionnement. Tu vis dans un contexte de vie universelle, d'une certaine manière. Et donc, il faut que tu puisses voir que tu n'es pas seul à être dans cette lumière. Donc, tu te restitues. Il y a une espèce toujours d'objectivité à avoir par rapport aux autres êtres vivants. Et donc, un immense respect. Ça, c'est le cinquième état. C'est vrai, c'est pour ça qu'il y a une espèce d'immense respect de la vie dans cette voie-là, au bout d'un certain temps. Bon. Mais ça, vous voyez, c'est juste une petite étape. C'est une petite étape qui permet de trouver, d'arriver à l'unité. Parce que si je fais, à ce moment-là, face aux autres réalités vivantes, si je... Vous voyez, celui que j'aime, je vois aussi que... C'est extraordinaire. Alors, quelqu'un, on est marié. Vous voyez ce que je vous ai dit plusieurs fois sur la deuxième modalité de l'unité spontanée entre l'homme et la femme dans le sacrement de mariage. Vous vous rappelez ce que je peux parler au mariage? Les deux ont parlé, nous sommes une seule chair, le corps de l'homme, le corps de la femme sont là et ils utilisent ce contact, j'allais dire, physique, à titre de vase communicant, à l'intériorité lumineuse de l'un, de pénétrer dans l'intériorité lumineuse de l'autre pour faire une seule intériorité lumineuse. Ouais. Vous sentez qu'ici, là, à ce moment-là, on est entre la quatrième et la cinquième colonne de l'intériorité de la lumière. J'utilise pour cela le corps. Dans l'étreinte mutuelle, je peux très bien, c'est bien, c'est facile, même si l'autre dort, c'est pas grave, il ronfle, mais je peux coller contre lui, mon mari ronfle, je peux coller contre lui, et puis m'écouler délicieusement en lui, par le point de vue de cette lumière intérieure de l'âme. Il n'y a qu'une seule lumière. C'est extraordinaire de faire ça. Et c'est très beau. Vous voyez, c'est la manière, sans doute, une des manières que la grâce de Jésus aimait opérer entre eux, la Vierge Marie et Saint Joseph. Ça, c'est des choses qui se vivaient couramment entre elle et son mari, parce que Joseph était le mari, la Sainte Vierge. Et ça se faisait sans aucun obstacle. C'est extraordinaire l'intimité qu'il y avait entre eux deux. Et dans le mariage, vous savez, le sacrement de mariage vous donne cette extraordinaire facilité de pouvoir habiter dans l'intimité de l'âme de l'autre, à condition bien entendu que vous ayez votre propre intimité d'âme. On est fabriqué de la lumière, c'est extraordinaire qu'on soit fabriqué de la lumière. Il faut prendre son temps pour ça. Évidemment, si vous êtes très pressé, faire un petit bisou, puis je m'en vais faire la cuisine, ça ne risque pas. Prenez votre temps. Alors à ce moment-là, face
précisément aux autres héritiers vivants que je communie, sans que ce soit une véritable communion. Dans le bouddhisme, on appelle ça le petit véhicule, n'est-ce pas? Et là, à ce moment-là, ça vous met face à votre intériorité dans ce cas-là de tout à fait individualité. Voyez bien, la vôtre. Vous voyez? Et du coup, vous voyez qu'il y a à la racine de cette lumière, là, ça y est, vous la touchez. Et là, cette source de lumière vivante qui fait votre unité. Et vous touchez, et vous êtes capable de vous engloutir dans l'unité vivante de vous-même. Cette unité est une source de lumière. Et vous voyez que là, je m'engloutis encore plus profondément. Ça demande une intériorité évidemment plus grande. Ça demande évidemment une pureté peut-être aussi encore plus grande. Parce que si quelqu'un est entièrement pris par ses fantasmes, ça risque pas qu'il puisse toucher, maîtriser, s'engloutir, saisir, posséder son âme comme source de lumière vivante. Et puis enfin, si vous possédez le septième stade de l'intériorité, alors le septième stade de l'intériorité, c'est qu'à partir du moment où vous possédez cette unité, vous pouvez, cette source de lumière, ce qui actue votre diaphragme intérieur, là, actue dans la lumière. Le diaphane intérieur, voilà. Je vous l'ai dit plusieurs fois, hein. C'est bien. Si vous n'arrivez pas, dites, ah voilà, tout ce qui actue mon diaphane intérieur. Le seul fait de le dire, ça y est, vous êtes là. Tout ce qui active mon diaphane intérieur. Vous voyez, la source unité par la lumière de mon diaphane intérieur. Dès que vous touchez ça, vous touchez quelque chose d'analogue, parfaitement analogue, avec la fameuse lumière créée dans la Genèse, vous savez, par Dieu, le premier jour, Dieu dit que la lumière sort et la lumière tue. Et cette lumière créée par Dieu, le premier jour de la création dans la Genèse, ça c'est plus la philosophie, ce que je vous fais, hein, c'est la révélation, hein, je sors la philosophie et je rentre dans la révélation de la foi, cette lumière a été créée par Dieu, et cette lumière créée par Dieu, c'est la lumière qui actue tout le diaphragme intérieur, cosmique, de lumière. Donc dès que vous touchez la lumière qui active votre propre diaphragme, vous êtes dans la possibilité de toucher également par contact cette lumière qui active le diaphragme de l'ensemble cosmique. Et qui fait l'unité de l'univers cosmique. Et c'est grâce à ça que vous êtes en contact réel, avec l'unité, ce qui fait l'unité de tout le cosmique. Tout cosmos. Vous ne pouvez pas, le grand véhicule, vous ne pouvez pas aller plus loin que ça. C'est impossible. Si vous pensez pouvoir trouver Dieu par la voie d'intériorité, Tintin, vous n'y arriverez pas. Le plus loin, la chose, la réalité que vous pouvez toucher, c'est cette lumière qui actue le diaphragme cosmique et qui en fait l'unité. Cette lumière n'est pas Dieu. Dans l'hindouisme, on dira cette lumière, c'est Dieu. Dans le bouddhisme, on dira cette lumière n'est pas Dieu. Les bouddhistes ont raison. L'hindouiste se trompe. C'est pas Dieu. D'ailleurs, il suffit d'en faire soi-même l'expérience, on touche cette lumière qui actue le diaphragme intérieur, vous voyez. Très bien que ce n'est pas Dieu. Mais c'est celle qui fait la source, c'est celle qui est la source de l'unité du cosmos. C'est pas la source du cosmos. C'est pas pareil. C'est celle qui fait l'unité. De même que ton âme, si c'est pas Dieu qui fait tout ton unité intérieure, c'est pas Dieu, c'est ton âme. Ah, dis-le, j'étais tellement profondément de rien, j'ai trouvé.
qui a touché ton âme. Or, aujourd'hui, il ne faut pas être un imbécile. Vaut mieux pas. Vous pouviez vous permettre d'être un imbécile au Moyen-Âge, pas du tout. Mais aujourd'hui, c'est très grave d'être un imbécile. C'est très grave. Parce qu'il y en a un qui va en profiter. Et il est décidé à le faire. Donc, ça n'est pas sûr. Les bouddhistes ont parfaitement raison. Mais quand même, vous dites, vous comprenez bien, c'est une philosophie, vous dites, où on s'investit uniquement dans cette voie d'infériorité. Alors, ils vont dire, Dieu n'existe pas. Là, ils font des conférences en France, etc., pour prouver que Dieu n'existe pas. Alors, ils ont raison dans leur domaine, si vous voulez. Mais c'est parce que, j'allais dire, ils sont amputés du point de vue donc de l'intériorité contemplative, de l'intériorité d'amour, ils sont amputés. Quelquefois, sur le point de vue de l'intériorité artistique, il y a quelque chose en eux aussi qui est amputé, mais enfin, néanmoins, en général, ils peuvent développer le point de vue artistique. C'est pas gênant parce que c'est très intérieur aussi, le point de vue artistique. Elle ne touche pas la divinité non plus. Donc vous voyez bien pour ce premier type d'intériorité. J'espère que vous voyez. Hein. Ce que je voudrais tellement que vous compreniez, c'est que ça peut s'intégrer à une intériorité d'amour, mais que ça n'est pas une intériorité d'amour. Ça marche. Quand je dis ça peut, ça doit s'intégrer à une intériorité d'amour. Et si ça n'est pas intégré à une intériorité d'amour, ça n'est pas grave pour l'amour. L'amour peut être parfaitement authentique sans qu'il y ait cette intériorité. Mais c'est quand même plus agréable. Vous voyez ? Parce que c'est plus agréable d'avoir affaire à quelqu'un qui rayonne. C'est une espèce de vache, je pense. Alors. Écoutez, c'est une petite bonne femme hein, qui se marie, mais qui se trouve pas dans quelqu'un qui va intelligent, c'est fini par avoir 50 ans. Non, elle est plus intelligente. Pas brillant, c'est pas ça, mais rayonne, lumineux. Ah, on va dire. Hein? Pas plus agréable? Bon. Tu vois? Bon, alors. Bon, voilà. Donc voilà, le premier type d'intériorité. Bon, alors c'est ce que j'avais posé comme question. L'expérience intérieure de l'art. Voilà. Bon, je fais une petite parenthèse. Pour la prière, vous pouvez avoir une prière aussi, une prière d'intériorité selon la voie que je viens de vous adresser. C'est tout ça, c'est ce que je vous ai dit. C'est quand vous êtes capacité dans vos enfants, vous savez, d'abord, on va apprendre à faire oppression. Et pendant 5 minutes, on va faire oraison, pour fermer les yeux, etc. Vous leur faites faire ce que je viens de vous faire faire à l'instant. Mais au lieu de passer par toutes ces étapes que je viens de faire, vous le faites aller directement dans la lumière vivante de la grâce, qui s'est blottie, qui s'est diffusée dans la lumière vivante de votre âme, qui est dans la lumière vivante qui est à l'intérieur de vous, lorsque vous fermez les yeux. Alors, fermez les yeux, et puis... Vous voyez, dedans, il y a tout un... Oh, il y a, c'est curieux, il y a quelque chose, je sais pas quoi. Ah, mais dedans, il y a l'âme, et c'est lumineux, et dans l'âme, c'est dedans. C'est la grâce du lumière vivant. C'est la lumière vivante qui actue le diaphane de la prestade. Et engloutis-toi dans cette lumière. Il y a une saveur extraordinaire dans cette lumière qui est une diaphane intérieure à la prestade trinité. Il y a une saveur particulière. Enfonce-toi dans cette saveur. Pendant 5 minutes, c'est le gosse. Donc, apprends à s'enfoncer dans cette saveur qu'on appelle l'esprit de sagesse. Bébé, vous pouvez déjà apprendre à faire oraison dès l'âge de 1 an, avant qu'il sache parler.
Alors, oui, alors, l'intériorité maintenant contemplative.
Mais j'ai peur de me répéter, puisque c'est ce que j'ai fait, il me semble, les fois précédentes. C'est pour ça que j'ai un peu peur. On fait vraiment de la répétition, là. Bon. C'était la dernière fois que j'avais fait l'intériorité contemplative, l'intériorité de la lumière. Mm. Ou bien c'était encore il y a deux fois.
Je pense que la dernière fois, c'était déjà une reprise d'une autre fois, mais la première fois, c'était moins beaucoup. C'était plus compliqué.
Ah, je parlais du baptême, c'est ça.
Oui,
bon, très bien. Alors, l'intériorité maintenant du réalisme, de la vérité. Vous voyez qu'alors là, on est tout à fait dans quelque chose d'autre. Hein? L'intériorité de la vérité, l'intériorité contemplative, l'intériorité, si vous préférez, spirituelle de l'esprit. Tout ça, l'esprit, ça fait partie. Dans l'homme, il y a un corps, il y a une âme et il y a l'esprit. Il y a l'esprit. C'est pas Dieu, l'esprit, c'est pas Dieu. Oh là, il nous parle de la vie spirituelle, il nous parle encore de sa religion. Mais imbécile, ça n'a rien à voir, la religion c'est Dieu. La vie spirituelle c'est la vie de l'esprit. L'esprit ça fait partie du bonhomme. Même si Dieu n'existe pas, c'est un esprit. Non mais il n'est pas dingue. Ah la voie spirituelle, la religion, mais non. Ça n'a rien à voir avec la religion. Mais c'est pour ça. C'est vrai, c'est les blocages qu'on fait. Oui. Ce blocage, vous voyez comme il est intéressant, parce que je suis sûr que vous faites peut-être aussi plus ou moins, hein, avant de connaître Marie-Thérèse. Peut-être que vous avez fait ce blocage, sans doute. Ça vient de nous. Vous voyez qu'aujourd'hui, le monde moderne se bloque complètement par le point de vue de l'Antichrist, des énergies. Ici, c'est tout. Le reste. Vous voyez ? Alors, il faut aussi prendre vue donc de la vérité. La vie contemplative, c'est l'esprit qui est en nous. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui est vif. C'est Jésus qui dit ça. La chair ne sert de rien. La chair, c'est l'âme en tant qu'elle se soude un corps. Voilà, je fais ce petit schéma, n'est-ce pas ? L'âme qui se soude son corps. Ça, on appelle ça la chair. La chair, c'est pas du tout pas du charnel, hein. Ça n'a rien à voir. La chair, c'est l'âme, mais qui se soude son corps. L'unité. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vit une vie. Ah, alors, si vous voulez vivifier votre prochain, là, c'est agréable, mais là, vous le vivifiez. Vous voyez la différence, hein? Bon, alors, donc, voyons. Et donc, c'est là. Donc, on commence par quoi? Alors, je vous l'ai déjà dit, on commence par le jugement d'existence. Ceci, j'existe. Allez, je sors de l'intériorité, je me touche, je me regarde, j'écoute, je sens la bonne odeur du parfum et de l'aftershave que j'ai mis ce matin, il y a une semaine, je sens cette odeur. Je touche un peu, ça c'est sûr, je ne rêve pas, je ne suis pas dans la caverne de Platon, j'existe. Ça, je suis sûr de me tromper. Encore à la rigueur d'avoir dire, je suis sûr d'avoir trouvé, de m'être rendu utile à tailler dans cette source de lumière qui a tué mon diaphane intérieur, je suis sûr, ça, viens d'avoir me trouvé et puis je te dirai si effectivement il y a des chances que tu aies pu t'aboutir à moi. Tu peux te tromper.
Et la plupart du temps, je me trompe complètement à 100%.
Mais là, je ne peux pas te tromper. J'existe. Ça, c'est sûr. Jugement d'existence. Voilà la différence qu'il y a entre la vie et l'être. L'être, j'existe. C'est quand même très important de voir la différence entre l'être et la vie. Alors, quel processus de l'intériorité? Ah, alors là, je ne me rappelle plus comment. Comment je pense qu'on a été tiré la dernière fois. Donc, vous avez d'abord, première étape, j'essaye de réouvrir les yeux et de voir que j'existe. Tu comprends bien que tu peux dire ceci existe. Quand tu prends ici par exemple un stylo, le stylo, ceci existe. C'est pour répondre ici à la question qui est là. Quelle différence entre ceci existe et puis ceci est, hein? Là, la montre, elle existe. La table, elle existe. Le micro, elle existe. Et puis, moi, j'existe. Et la fleur aussi, la rose qui est là, existe. Mais est-ce que je peux dire que je touche et que je peux faire un jugement d'existence en disant que ce stylo est? Si je prends du pain, est-ce que je peux dire ce pain est? Je peux dire ce pain existe. Il existe pas. Il existe. Mais dire que ce pain est, je peux pas. Donc il y a une différence en effet entre ceci existe et puis ceci est. Alors la différence. La différence, je reconnais que c'est très difficile à expliquer parce que il faut pour ça devenir, et il faut s'y exercer, devenir métaphysicien. C'est-à-dire qu'il faut s'habituer à faire des jugements d'existence. Lorsque vous voyez que vous pouvez toucher toute réalité que vous touchez, vous pouvez dire qu'il y a quelque chose qui existe. Et ton intelligence touche une réalité qui existe. Elle touche l'existé. Mais l'existé a quelque chose qui dépasse complètement. C'est justement là que ton intelligence se réveille, qui dépasse complètement le point de vue de la vie. Or, la vie apparaît et disparaît. Et l'immense différence qu'il y a entre l'être et la vie, c'est que la vérité n'apparaît pas, l'être n'apparaît pas, et ni l'un ni l'autre ne disparaît. Mais quand je touche l'existence de ce stylo, si je le mets au broyeur, il n'existe plus, le stylo. Mais l'être que j'avais touché à travers le stylo, lui, ne peut pas disparaître. Cet être continue d'exister. Ce qui prouve bien que ce n'est pas l'être du stylo. En fait, j'ai touché simplement à travers, en touchant quelque chose qui, par exemple, je touche un morceau de pierre, un caillou, je touche un caillou, et bien c'est pas le caillou, le caillou je le casse en deux, c'est plus le caillou, c'est deux cailloux. Mais en fait, je touche l'existence, l'être, du cosmos. Le cosmos existe. Le monde minéral existe. Et je peux toucher le monde minéral à travers une de ses parties. D'ailleurs, quand je me touche moi-même, quand je touche le point de vue de l'être, existe. C'est toujours à travers, à toucher une partie de moi-même. Vous me saisissez? Si vous ne saisissez pas ça, c'est très ennuyeux, hein? Donc il y a une différence très grande entre l'être et la vie. Donc quand je touche une pierre, je fais un jugement d'existence qui est moins intégral que quand je me touche moi-même. Je comprends tout de suite, au bout d'un certain temps, qu'il y a une pérennité dans l'ordre de l'être, dans certaines réalités que je touche, que je ne trouve pas dans le tout de certaines autres réalités. Ou alors, je m'aperçois à ce moment-là que quand je dis ceci est, le est que je touche dans le stylo, c'est le est, c'est l'être de l'ensemble du cosmos. C'est l'ensemble du monde minéral. Ça va? Et quand je touche mon être, c'est pas l'être du monde minéral. Parce que moi, mon être a quelque chose de plus qu'en tout du monde minéral. Il y a quelque chose qui apparaît dans l'ordre de l'être, ça peut apparaître, mais ça ne disparaît jamais. C'est la différence avec la vie. C'est que l'être subsiste toujours. Il y a une individuation dans l'ordre de l'être. L'être fait que vous êtes unique dans l'ordre de l'être et il fait en même temps que vous subsistez perpétuellement. Ça, c'est ce que je vous dis ici. Ce sont des conclusions métaphysiques, mais c'est pour vous orienter. C'est une perspicacité de l'intelligence qui ne peut pas se tromper, qui perçoit cela. Quand je touche celui que j'aime, c'est une personne humaine, si je suis vraiment métaphysicien et que je suis capable de me dégager du point de vue donc, de vie de cet être, hein, si je suis fixé sur sa vie, je vais pas être métaphysicien parce que c'est vrai qu'à un moment il va mourir. Ou du moins que sa vie ne sera pas supprimée puisqu'elle est liée à son être, mais elle m'échappera. Et donc je vais avoir beaucoup de mal si je suis uniquement engouffré là. Tandis que si je suis métaphysicien, c'est-à-dire si j'ai une intelligence éveillée, eh bien je comprends tout de suite que celui que j'aime, eh bien il vivra toujours. Il vivra toujours. L'être qu'il est indestructible. Il pourra effectivement connaître des divisions, certaines corruptions, etc. Mais il continuera toujours d'exister. Il y a quelque chose qui est immortel dans l'être, puisqu'il ne relève pas de la vie. C'est ce qui relève de la vie qui est mortel. Dans l'homme de l'être, c'est immortel. Aïe, aïe, aïe. Donc vous voyez tout de suite que quand je touche au point de vue de l'être, je suis très étonné. Premier mouvement de l'intelligence contemplative, faire la différence entre l'être et la vie. Deuxième mouvement, faire du coup un jugement d'existence. Troisième mouvement, ayant fait ce jugement d'existence, je vois le caractère tout à fait extraordinaire, unique, très pas mystérieux, c'est pas mystérieux, puisque justement je peux très bien le comprendre et l'étreindre, si je suis intelligent, si je suis déjà contemplatif, et c'est le but, justement. Mais, c'est quand même très très grand. Il y a quelque chose qui me dépasse, dans l'immédiat, quelque chose qui me dépasse. Voilà, l'être. C'est étonnant quand même, l'être. J'existe, puis l'être que je suis, qui continuera de subsister, il est individuel, et moi, en tant qu'être, je suis toujours. Et puis l'autre qui est à côté de moi, je peux dire, il existe. Il y a quelque chose qui demeure. Et cette chose qui demeure dans l'ordre de l'être, c'est étonnant. Si vous êtes intelligent et que vous faites ça, que vous prenez votre temps pour ça, vous prenez beaucoup de temps pour ça, vous verrez apparaître de l'admiration, de l'étonnement. Un étonnement, en voyant ça. Vous serez étonné. Une admiration, troisième moment. Alors du coup, votre intelligence, quatrième moment, s'ouvre comme une fleur. Au soleil de l'amour, n'est-ce pas, c'est au soleil de l'être que l'intelligence s'ouvre, spirituellement parlant. Et vous vous posez la question, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que l'être? Et vous voulez comprendre l'être de l'intérieur. C'est ça, du coup, c'est fort. C'est là où c'est fort. Je veux comprendre l'être de l'intérieur. je passe à la cinquième étape, parce que la cinquième étape, c'est justement ce qu'on appelle la métaphysique. La métaphysique, vous avez bon, 3 ou 4 ans pour faire l'induction de la substance, l'induction de l'acte, regarder les propriétés de la substance et les 5 modalités de l'acte. Il y a 2 propriétés pour la substance, 5 modalités de l'acte. En tout, ça fait 7. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors, en tout cas, vous rentrez dans une intelligence qui est contemplative, qui touche en l'être, peut pénétrer et comprendre enfin de l'intérieur que c'est l'être par l'induction. Elle saisit la substance. Elle saisit la cause finale, la plénitude intérieure au point de vue de l'être. C'est l'intellectuel, l'âme. Et vous voyez que ici, c'est extraordinaire, la vie contemplative. Les réveils, pardon, ici je suis en train de vous faire le réveil à la vie contemplative, parce que, c'est, vous voyez, c'est un mouvement ascendant, c'est pas du tout un mouvement descendant, comme dans l'intériorité de la lumière. C'est un mouvement ascendant, inductif, d'étonnement, d'admiration, d'induction, et de réceptivité. Une fois que vous avez saisi que l'être, dans 5 rayonnements intérieurs à lui-même, est parfait, vous pouvez, à ce moment-là, commencer à voir, à saisir et à toucher que tous les autres êtres sont semblables à ceux-là. Tout ce qui est être. Et vous rassemblez tout ce qui est dans l'ordre de l'être, dans ces 5 rayonnements qui touchent la plénitude dans l'ordre de l'être. Et vous comprenez à ce moment-là, immédiatement, dans une expérience d'intelligence qui est sûre de ce qu'elle touche, aussi sûre que quand je touche cette rose, que je ne me trompe pas, sauf qu'elle n'est pas c'est une vraie rose, c'est artificiel. Je vais vous rendre compte, mais il a fallu que je la touche. Il a fallu que je la touche pour voir si c'était une artificielle. Bon, et maintenant, je suis sûr qu'à ce moment-là, je touche l'être premier, c'est-à-dire la source de tout ce qui existe. Et ça, c'est la deuxième grande étape à la vie contemplative. Première grande étape, me pénétrer dans le je suis qui est le bien. La deuxième grande étape, saisir à partir de ce je suis, étant tellement dans le réel de ce je suis, que je finis par être capable de toucher le je suis du Créateur. L'être premier. N'hésitez pas à le faire. N'attendez pas 40 ans de vie métaphysique pour faire la démonstration de l'existence de l'être premier. Sachez que cette démonstration n'a jamais été renversée, et donc atteignez-le directement. Faites confiance à peu près 2 ou 3 millénaires de sagesse humaine, n'est-ce pas, qui ont toujours passer au crible de la vérification, cette fameuse démonstration irrenversable de l'existence de l'être premier. C'est pas la vie première, c'est l'être premier. La vie première, c'est cette lumière qui étudie l'intérieur du cosmos. Et dans cet être, il y a la vie, il y a une source de vie. Donc la vie contemplative consiste à toucher Dieu réellement et en vérité et sans se tromper. Il suffit que je vois que je suis. Si vous voyez que vous êtes en contact avec celui qui est et qui est source de tout ce qui existe, et je vois que mon je suis à moi est une participation à l'être de l'être premier. Et à ce moment-là, je peux rentrer dans la 7e étape de la vie de l'intelligence, qui consiste à contempler cette fois-ci, puisque à ce moment-là, il y a cette adoration, je viens de vous expliquer que mon je suis dans les mains du je suis de Dieu, donc ici j'adore, je me laisse prendre par la vérité qui fait que je suis dans les mains du Créateur. Et du coup, étant dans les mains du Créateur, ma vie qui était là, que je possède si bien parce que j'ai eu une quinzaine d'années d'initiation bouddhiste, alors je possède si bien, eh bien, je la fais pénétrer dans cette intimité de « je mange, je suis » avec « je suis de Dieu ». Par amour, je lui donne toute ma vie. Et comme dans ma vie, il y a cet extraordinaire épanouissement de la connaissance, de la contemplation, de l'ouverture de l'âme, à travers cette ouverture d'amour dans l'adoration, je peux contempler les attributs divins. Et en numéro un, cette simplicité extraordinaire de Dieu. Et à travers cette simplicité extraordinaire de Dieu qui existe, cette perfection absolue de Dieu. Et puis, j'apprends aussi à toucher et à voir la bonté, la surabondance de Dieu, du Créateur. Enfin, les sept attributs. Voilà ce que c'est que l'intériorité contemplative. L'intériorité contemplative est débordante. C'est-à-dire que vous pouvez aller encore plus loin que ce que je viens de vous dire. Et dans cette contemplation des attributs divins que vous touchez actuellement, vous regardez celui que Dieu a mis à côté de vous, mais avec cette lumière de connaissance contemplative dans laquelle vous êtes. Vous regardez l'autre dans la lumière de l'âme créateur de Dieu sur lui, et tout en contemplant les attributs divins qui pénètrent en lui et qui font participer l'être qu'il fait exister, fait participer son être à tous ces sept attributs divins. À ce moment-là, vous pouvez contempler l'autre. Et vous voyez bien que ici, cette dimension contemplative s'achève dans un huitième qui est la contemplation de celui que tu as mis à côté de moi. C'est une contemplation. Cette contemplation rend possible une intériorité dans l'ordre de l'amour. Qu'est-ce que c'est l'intériorité dans l'ordre de l'amour? Vous voyez, il faut respecter l'ordre, hein? D'abord au point de vue de l'âme, puis après au point de vue de la contemplation. Si vous êtes contemplatif, vous pouvez commencer à aimer. Notre intelligence est amortie par les sitiologies, et par les gnoses, et par les propagandes. Et par tout ce phénomène de chape, vous voyez, d'infestation collective dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Bien que l'être humain ne peut plus s'éveiller ni à lui-même, et s'il ne peut pas s'éveiller à lui-même, il ne peut évidemment pas s'éveiller à ce qui en lui peut recevoir la sainteté de la très sainte Trinité, la sainteté de Jésus, la sainteté de la grâce. Donc c'est pour ça qu'on le fait. Mais simplement, il faut quand même que nous soyons très très lucides sur ce fait que c'est de la philosophie que nous faisons. Et que n'importe quel philosophe pourrait vous le faire. Voilà. Comme ça que ce soit un moine. Voilà. Bon. Pardon ?
Tu dis n'importe qui, je suis pas...
Non, n'importe... Oui, je veux dire, c'est pas mon métier de prêtre. C'est pas mon métier de prêtre, voilà ce que je veux dire.
Pour la dose de spiritualité, pour communiquer.
Oui, il faut une dose de spiritualité, parce que la philosophie implique qu'humainement, on soit éveillé. Donc c'est pour nous éveiller humainement. Mais il suffit que ce soit un homme éveillé qui vous le fasse. Pas besoin que ce soit un homme surnaturalisé.
Pour les rues.
Ouais, c'est ça le problème. Alors, c'est pour ça qu'on est obligé, c'est à cause de ça, par exemple, que Mère Teresa va s'occuper des mourants. Parce que n'importe quel être humain digne, j'allais dire, de ce nom, s'il y a quelqu'un qui meurt comme ça dans le trottoir, il s'arrête. Et il va le secourir, il va l'aider à agoniser, il va le soigner.
Mais comme ce sont des pays, justement, où le point de vue de l'humain, c'est très très fort amorti à cause d'une culture axée essentiellement sur la subjectivité de l'âme, ils abandonnent les mourants à leur karma. Alors, la mère Thérèse de Calcutta et toutes ces 2 ou 3 000 sœurs qui sont admirables, bon, qui se donnent à Jésus pour vivre de la grâce, supplient. Elle supplie à ce qu'il y ait de défaillant dans l'humain des hommes qui veulent soi-disant vivre en tant qu'hommes seulement. Marquez, c'est bien, c'est ce qui fait la grandeur. Et l'Église a toujours fait comme ça. L'Église de Jésus a toujours fait comme ça. Bon. Toujours. Les hôpitaux n'existeraient pas s'il n'y avait pas eu l'Église de Jésus. Historiquement, les hôpitaux, c'est à cause de juste des bonnes sœurs, des prêtres, etc., qui ont supplé la justice, qui ont juré, etc. Ça vient aussi du corps mystique de Jésus. Il n'y aurait pas l'organisation de la justice moderne, l'initiative, c'est-à-dire, ben, heureusement, petit à petit, au bout d'un certain temps, hein, eh ben, le relais a été pris par, par l'humain, n'est-ce pas? On appelait ça l'inquisition depuis. La question, c'est l'instauration de règles pour qu'on ne condamne pas un innocent. On appelle ça la justice. Mais avant l'inquisition, ça n'existait pas. On dit toujours l'inquisition, c'est dégueulasse. Mais l'inquisition, c'est pas dégueulasse du tout. L'inquisition, c'est l'instauration de la justice. L'inquisition, c'est pour empêcher qu'on condamne un innocent. Et aujourd'hui, dans l'ordre de la justice, dans la justice humaine, on se refuse à condamner quelqu'un s'il n'y a pas la preuve, ben ça vient de l'inquisition. Et aussi le fait qu'il y ait un jugement, qu'il y ait la possibilité pour celui qui est accusé de se défendre, qu'il y ait un jugement, qu'il y ait un jury, etc. Puis qu'il y ait des... Tout ça, ça vient de ça. On appelle ça l'inquisition. Aujourd'hui, on devrait appeler ça, non pas le ministère de la justice, mais le ministère de l'inquisition. Mais il y a une telle haine de l'Église qu'on veut montrer de l'Église un visage défiguré, monstrueux. C'est très curieux, ça. Quand vous faites beaucoup de bien à quelqu'un, une fois qu'il s'est relevé, qu'il a trouvé son autonomie, vous verrez que s'il reste au niveau psychologique, il vous rejettera. Et puis, il vous haïra. Ça, c'est constant, ça. Il faut simplement accepter que ce soit comme ça. Ça prouve qu'il commence à se sentir autonome. C'est intéressant. Et c'est bien. Et donc, vous devez vous en réjouir. En attendant de passer à la troisième étape, qui consiste à le retrouver dans son autonomie cette fois-ci. Donc, en l'aimant. Et non plus en le secourant. Alors. Personne ne va pas parler, vous savez. Ça fait donc la fin d'une affectivité maintenant. Donc vous voyez ça. Bon, eh bien j'espère justement que nous qui faisons de la philosophie, eh bien on espère que dans une ou deux générations, des gens qui sont la plénitude de l'humanité sauront donner, j'allais dire, à notre place cet enseignement de sagesse. C'est pas, sans qu'on soit obligé de le faire, de manière qu'on puisse rentrer dans des choses plus, encore plus, non pas nécessaires, mais plus ultimes. Alors, nous étions donc dans l'affectivité de l'amour. Alors voilà. Donc, ce que j'aurais voulu justement arriver à vous faire comprendre, c'est justement le mouvement différent de l'âme. Pardon. Le mouvement différent du processus de la montée intérieure. Dans l'axe numéro 1, numéro 2, numéro 3, l'amour. C'est d'une montée, l'amour. Alors, le cœur, la volonté, l'affectivité, tout ce que vous voulez, l'amitié, le don, l'accueil. De toute façon, vous l'avez ici, hein, si vous voulez la liste. Hein. Je vois que tout le monde note. Hein. Alors, donc, vous êtes parti, vous êtes prêts pour noter, attention. Bon. La
surabondance, la présence, la fécondité, la forte conquête, la souplesse, la véhémence, la pénétration intérieure, la lucidité, la pureté du cœur et le dynamisme dans la pénétration, la violence de l'amour, la douceur, la vulnérabilité et la ferveur. Et enfin, l'ordre, l'efficacité dans l'ordre de l'amour, la nécessité de l'amour, l'harmonie mutuelle. Puis on continue, l'effacement, l'engloutissement dans l'éternité d'un amour qui a trouvé son unité, l'extase. Et, à titre de surabondance, la profondeur, la jalousie et la surabondance de l'unité. Voilà les sept grandes étapes. C'est pas mal, hein? Vous voyez bien qu'il montait. Hein. Vous voyez, je viens de vous lire ici les modalités de l'amour en fonction des grandes traces de l'amour de Dieu réel. L'amour réel de Dieu, l'amour existant de Dieu, l'amour substantiel de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, dans le cœur, créé, vivant, existant, substantiel, humain du Christ, étant donné qu'il y a sept grandes dimensions dans l'homme, il va y avoir sept grands épanouissements, cet amour substantiel et éternel de Dieu, diffusé dans le cœur et l'amour humain du cœur sensible de Jésus. Et c'est à cause de ça qu'il va y avoir cette grande montée de l'amour dans le cœur de Jésus par la médiation de l'Esprit Saint. Ceci, vous voyez, c'est de la théologie. Mais à partir de cette théologie, je vois qu'il y a une trace dans le cœur humain qui n'est pas chrétien lorsqu'il est. Il y a quelque chose d'analogue. C'est la même montée, mais à un niveau strictement temporel. Au lieu que ce soit un niveau surnaturel, comme dans la grande montée des sept temps du Saint-Esprit à travers le cœur de Jésus qui bat dans mon cœur. À ce moment-là, c'est surnaturel. Mais c'est exactement la même nature de la progression affective de mon amour, de mon affectivité. C'est la même montée. Donc si vous voulez regarder cette montée, reprenez ce tableau. Vous prenez les modalité correspondante de l'amour. Vous voyez bien. C'est tout à fait au milieu, à l'endroit où la page se plie en deux. L'Église dans la grâce, sept sacrements, sept dons du Saint-Esprit, symbolisme du Saint-Esprit, et enfin cette ligne, les modalités correspondantes de l'amour. C'est des modalités correspondantes. C'est pour que vous alliez plus vite. Vous êtes chrétien, vous n'avez pas besoin que je vous fasse une démonstration de ça. Je vais directement par la théologie de Jésus pour vous dire Jésus théologiquement et l'amour humain humainement, c'est la même chose. C'est les mêmes lois. C'est la même structure. C'est la même sagesse. Il y a une sagesse naturelle et il y a une sagesse surnaturelle. Alors, il suffit de dire surabondance d'amour naturel, surabondance de présence d'amour naturel, dans l'amour fécondité naturelle, et si je suis dans le Christ, vous mettez surnaturel. Mais c'est exactement la même chose dans la progression. Est-ce que ça va? Vous prenez donc, si vous voulez voir cette grande montée, cette ligne ici, et vous faites vous-même le travail, en reprenant vos propres expériences affectives, vous regardez la personne que vous avez vraiment le plus aimée. Et vous regardez vous-même comment, réellement, il y a eu cette montée progressive
d'un amour qui n'a jamais cessé de s'intensifier. Et vous le regardez ici. Ce que j'aime tellement faire quand on fait de la préparation au mariage avec des fiancés, au bout de 9 mois de fiançailles, on regarde le 9e mois et on essaye de voir où ils en sont arrivés dans la maturation de leur amour mutuel. Donc vous savez très bien que j'aime exagérer en disant il y a 33 degrés. Donc ceux qui s'intéressent et qui regardent la cassette, n'est-ce pas, sur les 33 degrés de l'amour. Bon, je crois qu'elle existe. Non, les 44 degrés de la connaissance, c'est quand on est atterrant en septembre ou en août, je ne sais plus. Et 33 degrés d'amour, je crois que j'ai fait la fois. Ah non, c'est le New Age que j'ai fait. J'ai fait les énergies, d'accord. Non, c'est tout à fait. Bon, ben, il faudra que je vous refasse un jour les 33 degrés d'amour. Je vous promets, je le ferai.
C'est très très utile. Il ne faut pas croire que c'est inutile. C'est pas pour faire beau. La philosophie, c'est vraiment pour nous aider. C'est pour y voir clair. Donc, prenez donc ici d'abord les modalités correspondantes de l'amour. Et en plus, vous prenez ici structure d'intériorité du cœur qui aime. Ça va? Voilà. C'est en bas. Les structures d'intériorité, premièrement, le cœur qui aime. Bon, alors nous allons prendre ça, si vous voulez bien. Alors ça, c'est vraiment très classique. Vous allez voir que ce qui serait bien, c'est que nous essayons de comprendre la chose, non pas théoriquement, mais en fonction de l'expérience. C'est l'effort que vous devez faire. Vous voyez, quand vous écoutez un sermon à la messe, faites l'effort d'essayer de ne pas comprendre ce qu'il dit, mais de voir la relation de ce qu'il dit par rapport à votre expérience chrétienne. Et par rapport à l'expérience vécue du Christ. Faites la relation entre ce qu'il dit et ce que Jésus est l'expérience concrète du Christ, ou la vôtre. Lorsque nous sommes ici de la sagesse, n'essayez pas de comprendre ce qui est dit, sinon ça devient une idéologie. Essayez de faire la relation avec l'expérience. Revivez l'amour que vous avez vécu et remontez. Et revivez cette grande montée affective que vous avez vécue dans le plus grand amour de votre vie, par exemple. Ou même dans un amour badin, c'est pas rien. Pour la première étape, vous pouvez prendre un amour badin. Vous a marqué au point de vue personnel. Parce qu'il y a quelquefois des amours qui n'ont pas été très loin, mais qui ont terriblement marqué quelqu'un. Hein? On peut très bien avoir un amour pas du tout profond avec quelqu'un, n'est-ce pas? Pas du tout profond. Et un amour beaucoup plus profond avec d'autres, si vous voulez. Mais 50 ans après, on est encore sous le choc. Pourtant, c'est pas si profond que ça. Enfin bref, il faut partir de vos expériences. Non, ça sert à rien. Bon. Alors, au départ de l'amour, vous voyez bien, vous ne pouvez pas aimer si vous n'avez pas une certaine autonomie. Deuxièmement, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un si vous ne le connaissez pas. Si vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas l'aimer. C'est d'ailleurs pour ça, d'ailleurs, qu'il faut absolument rentrer dans la doctrine, l'enseignement, la lumière vivante qui est sortie de la bouche de Jésus, la révélation, pour pouvoir aimer Jésus. Mais vous ne pouvez pas aimer Jésus si vous ne le connaissez pas. Si vous vous contentez uniquement d'un vague catéchisme très lointain, vous n'aimerez jamais Jésus. Il faut connaître Jésus de l'intérieur en rentrant dans la grande révélation de la sagesse lumineuse et vivante du corps et du cœur mystique de Jésus, c'est-à-dire l'enseignement de l'Église. Puisque Jésus a dit, c'est la seule que je donne mon enseignement et mon intériorité plénière jusqu'à la fin des temps. Les gens qui sont dans l'Église pourront être des imbéciles, des idiots, des pécheurs, tout ce que vous voulez quant à leurs actes, mais n'empêche que l'enseignement qu'il y aura dans l'Église sera le seul enseignement vivant et plénièrement vivant qui me permettra qu'on connaisse
quoi qu'on mette, en dehors, on ne pourra pas. Il l'a dit explicitement. Donc il n'y a pas une infaillibilité dans l'ordre, si vous voulez, de l'application dans les actes de l'Église, mais il met une infaillibilité dans l'ordre de la bonne nouvelle. C'est pour ça, voyez-vous, m'écoutez avec une confiance éperdue. Mais ne faites pas comme je fais. Reliez-vous à votre expérience et à l'expérience du fait. Oui, ça va? Bon, ça pour. Alors, donc, premièrement, dans l'amour, il y a quelque chose de. L'amour est continuellement, si vous voulez, quelque chose qui vient de quelqu'un, qui apparaît dans quelqu'un qui est déjà ouvert. Il y a déjà, vous sentez bien, ici une autonomie et ici une ouverture par la vie contemplative. Une autonomie par le point de vue de la lumière et de l'âme, il y a une unité, et une certaine, vous savez, ceci-là, arriver à toucher en vous ce qui actue votre diaphane intérieur et fait votre unité, et puis cette responsabilité où vous touchez, vous êtes responsable de ce qui fait l'unité du cosmos. Nous sommes responsables du cosmos. Et j'ai une action, j'allais dire, de lumière sur le cosmos. Et j'en prends conscience. Je n'ai pas besoin de 10 ans de travail sur moi-même pour faire ça. Je peux le faire en 30 secondes. Pas besoin de 40 ans. Hein. Et là, c'est pareil, c'est simple. Hein. C'est très simple, j'existe. Ah, mais Dieu existe. Le je suis qui vient, je suis de Dieu. L'unité. Ah, quelle simplicité. Quelle éternité. Quelle bonté surabondante. Enfin, bref. Là, je deviens ouvert. Ça va très vite. Vous voyez, c'est très sommaire. Le gosse qui a 3 ans, il peut commencer à vivre un amour. Parfait. Hein? Relions-nous à l'expérience. Cette petite fille-là. Vous savez bien, vous l'avez bien connue. Elle a une montée affective dans l'ordre de l'amour tout à fait prodigieuse. Nous avons tous ceux qui l'ont connue, là, parmi nous. Elle est morte, elle est décédée à quel âge?
4 ans.
Bon, si vous avez du mal en disant j'y arriverai jamais, il me faudra au moins 15 ans, priez-la. Vous allez voir.
Ah,
ça s'appelle Rosemary. Hein. Ça n'est pas une gnose. Ça n'est pas une idéologie. Ça n'est pas un circuit initiatique, ce que Jésus nous fait. Il nous donne, et ce que Dieu nous donne aussi dans la sagesse, il nous donne tout simplement, il nous révèle, il nous rentre-y de suite. Bon, bien sûr, un habitus petit à petit va naître, hein. C'est-à-dire que tu vas finir par ce que ce soit de plus en plus habituel, continuel. Mais si tu veux le faire maintenant, tu veux le faire quand tu veux. Mais que ce soit continuel, ah ça d'accord, il faudra peut-être du temps pour que ce soit continuel. Ah d'accord. Atteindre ça, jamais j'y arriverai, immédiatement, tout de suite, quand tu veux, ça aussi. L'acte d'adoration, quand tu veux. Contemplation des attributs, quand tu veux. Ça dépend uniquement de toi. Il suffit que tu mettes toutes tes billes, c'est tout. En 15 secondes, tu y arrives. Celui qui n'y arrive pas, qui vient de me trouver, je lui botterai les fesses. Donc, ici, vous êtes réveillé. Vous êtes réveillé. Une fois que vous êtes bien réveillé, oui, il faut 15 secondes, alors à ce moment-là, vous pouvez aimer. C'est ça qui est merveilleux. Et un gosse, il peut aimer. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas embourbé dans les idéologies, on n'a pas eu le temps de lui faire regarder trop la télévision, lire les bouquins, etc. Il a été compris uniquement à quelque chose qui est très très réel, sa mère, son père, la nourriture, l'amour, l'admiration face à l'enfance, son innocence, sa pureté, tout ça. C'est très naturel, hein. Bon, bien sûr, malheureusement, les habitudes freudiennes et les pédagogiques, etc., commencent déjà maintenant, malheureusement, à s'appliquer dès les premiers âges de 1 an, 2 ans, alors déjà 2 ans c'est trop tard, tu vois. C'est terrible, c'est effrayant. Enfin bon, à 1 an, 2 ans, bon, en principe, il peut aimer, quoi. C'est extraordinaire, tu vois. Apprendre à aimer Jésus avant qu'il sache parler, c'est extraordinaire. Donc, je suis éveillé. Je suis éveillé. Alors, à un moment donné, je vois que j'ai beau être extraordinairement lumineux, extraordinairement intéressant, extraordinairement spirituel, extraordinairement compréhensif. Bon, j'ai beau tout ça, à un moment donné, je m'arrête un peu et je vois qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un d'autre qui m'attire. Ça commence comme ça. Je suis attiré. Je suis attiré par quelque chose. On appelle ça bon, celui que vous allez aimer. Et c'est le bien. Il y a une bonté. Quelqu'un qui remplit une bonté, il vous attire. Là, vous êtes attiré par lui. Et dans la contemplation, vous n'êtes pas attiré, vous recevez. Vous recevez, vous accueillez celui, hein, dans la contemplation. L'être descend en vous et vous recueillez et vous pénétrez dans l'être. Mais ici, dans l'amour, c'est pas du tout ça, c'est que vous êtes attiré. C'est un mouvement tout à l'autre. C'est un mouvement de sortir. Vous êtes attiré par l'autre. Parce qu'il est bon. Et c'est votre bien. Et le bien vous attire. C'est pour ça que Dieu nous attire. Si quelqu'un est un peu éveillé, il est attiré par Dieu. Vous avez peut-être écouté certains d'entre vous, Gorbatchev, parler à la télévision hier soir, ou avant-hier soir, pardon. Avant-hier soir, je ne sais pas sur quelle chaîne. Mais il disait, bon, ben, sur la fin, les deux ou trois dernières questions, il disait des trucs en disant, bon, oui, le monde politique, tout ça, c'est très important et tout. Pour moi, c'est très important d'avoir essayé de se désarmer. Mais une chose que je trouve c'est très intense, cette espèce d'ambition de faire quelque chose de bien pour le monde, pour l'humanité, c'est très intense, c'est quelque chose, une émotion et une grandeur. Il parle en slave, vous savez, alors, bon, les slaves, c'est la grandeur, de l'intensité, tout ça. Et il disait, mais il y a une chose qui me paraît encore plus infiniment, c'est plus intense, c'est contact avec l'univers, avec la création, avec la nature, et de constater que je peux recevoir tout dans la nature et me déployer tout entier dans la nature tout entière et vivre de cette unité et puis de cet amour étudié. Et en fait, c'est à ce moment-là, j'en suis arrivé aujourd'hui à un stade où je suis en face de Dieu. Et il n'y a plus que ça qui va me dire. Il a dit ça. Et j'en suis à ce stade. Alors évidemment, c'était un peu bancal, son truc, puisque vous voyez, il partait de là. Hein, cette espèce de diffusion dans le monde. Et à partir de là, mais vous voyez, il y a quelque chose de ce que je vous dis, c'est que du coup, on est attiré par un autre. L'autre est bon. Et c'est le bien. Le bien est forcément difficile de savoir. Et ce qui fait le bien, c'est qu'il attire. C'est génial. Vous êtes attiré par quelqu'un. Qu'est-ce que vous voulez? Là, vous voyez bien que l'amour et la liberté n'ont rien à voir. Parce que quand d'un seul coup, tu es attiré par quelqu'un d'autre, tu n'y peux rien, t'es attiré. Et puis c'est tout. Hein? C'est vrai ça? T'es attiré. L'amour s'impose à toi. S'impose à toi, t'es pas libre pour ça. L'amour va jouer, la liberté va jouer dans le processus. Mais au départ, non. L'amour, tu es attiré par l'autre. Tout commence comme ça. Donc si vous voulez aimer, arrêtez-vous, réveillez-vous et laissez-vous prendre dans l'autre que vous voulez aimer, essayez de vous renouveler dans ce qui, dès le départ en lui, vous faisait que vous étiez attiré par lui. Et renouvelez-vous dans cette attraction, attiré par lui. Rafraîchissez-vous comme ça. de temps en temps. C'est pas mauvais. Alors à ce moment-là, vous voyez, c'est en présence hein, de l'autre. Hein, c'est en présence de l'autre. C'est une espèce de présence de l'autre qui est là. Et vous êtes toujours présent. À vous. Hein, tomber amoureux. Hein, hein, c'est un peu comme ça, quand on tombe amoureux. Non, on est attiré par l'autre. Et t'es pas libre, hein. Tu dis, mais. Une bouffiade. C'est curieux. Bon, alors, c'est pour ça que je fais la chirurgie quelquefois. Ah, donc, le deuxième moment est très simple, c'est que vous voyez, vous, à un moment, vous pouvez pas vous laisser comme ça aller sur les marécages de l'amour. Sans que ce soit personnel. Parce que cette donnée de l'amour, voyez, c'est un donné primitif. Ça vous est donné tout de suite, immédiatement. C'est un appel. Donc c'est un appel, j'allais dire, de la nature. De la nature. Bah, Dieu l'a prévu comme ça, d'accord, mais c'est quand même un appel de la nature. C'est un appel de nature à rentrer dans cette intériorité de l'amour. Et à vous engager dans cette intériorité de l'amour, personnellement. Et donc à rentrer dans cette nouvelle intériorité, et à vous laisser prendre, et à vous dynamiser vous-même dans cette troisième grande structure d'intériorité. Je m'excuse, c'est un peu sec de parler de l'amour comme ça. Mais enfin, ça ne fait rien. C'est pour essayer d'être lucide, surtout, et plus on est lucide, plus après on va vite dans la haute de l'âme. Alors, donc vous prenez conscience qu'il vous attire. Vous prenez conscience qu'il vous attire. Deuxième étape, il m'attire. C'est qui m'attire? C'est quoi en cette personne qui m'attire? Il m'attire. Il est mon bien. Tout ce qui est bien, substantiellement parlant, vous attire. Alors chez lui, là, vous êtes attiré. Donc la deuxième étape, c'est d'accepter de regarder cette attraction formidable en face. En disant, je suis attiré, je l'aime. Combien de gens s'arrêtent parce qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'ils aiment? Pourquoi? Parce que l'amour vous met dans la dépendance. Alors que jusqu'à maintenant, vous avez atteint l'autonomie dans l'ordre de la lumière et l'autonomie dans l'ordre de la subsistance. Et d'un seul coup, l'autre vous attire, vous êtes dépendant. Donc, reconnaître que vous aimez, vous voyez, c'est là où Lucifer s'est arrêté. Lucifer, niveau New Age, est très fort. Très, très fort. Et même au niveau métaphysique, il est très très fort. Là où il coince, c'est là. C'est être dépendant d'être spirituel qu'il doit aimer, parce que c'est comment on s'impose à lui, et il doit reconnaître qu'il doit se mettre sous cette dépendance. Et il ne veut pas être sous la dépendance d'un homme de boue, de chair, d'os et de sang. Il faut accepter d'être dépendant. Et donc, voyez, je prends conscience que cet amour est là et que je suis appelé à ne vivre que dans une dépendance totale par rapport à celui qui me trouve. J'en prends conscience. Et j'en prends conscience, mais j'en prends conscience dans l'acceptation. Vous voyez bien. Je suis heureux de vivre cet amour. Je me laisse aimer. Voilà. Lucidement, consciemment. Ça va? Deuxième étape, prise de conscience. Et du coup, je regarde, non plus seulement d'une manière contemplative, mais je regarde avec amour, mais aussi dans la lucidité de l'intelligence spirituelle, donc avec un amour contemplatif, celui qui m'a dit. voyez. Ça, la liberté ne joue pas encore. Vous voyez, normalement, ma liberté peut jouer négativement en me fermant les yeux, en me détournant. Mais ce n'est pas une liberté ici positive. La liberté va jouer positivement à deux autres moments. Et là, on ne sera jugé, c'est sur les actes de la liberté. Il y a des gens qui aiment et qui seront condamnés, je tiens à vous le dire. Pourquoi ? Parce que l'amour, ils ne l'ont pas choisi. On aime et puis c'est tout. On aime et puis c'est tout. L'amour s'impose à vous. Mais qu'est-ce que tu en as fait de cet amour ? C'est là-dessus que tu seras jugé. Il n'y a pas de jugement ici. Il n'y a pas de jugement là. C'est pour ça que les gens qui vivent uniquement dans les spiritualités du Nouvel Âge, les dégnoses, trouvent insupportable qu'il y ait un jugement. Parce que pour eux, l'amour n'existe pas. Et pour quelqu'un qui comprend ce que c'est que l'amour, il comprend immédiatement qu'il y aura un jugement. Parce qu'on ne peut pas briser l'amour sans qu'il y ait un jugement. Quand on comprend ce que c'est que l'amour, on ne peut pas. On ne peut pas. Briser l'amour, c'est terrible. Corrompre la vie, bon. À la grâce de Dieu, compassion, et puis c'est lavé. Mais non, un amour brisé, c'est, il faut un jugement. Il faut la croix de notre Seigneur, Jésus-Christ. Il faut qu'il y en ait un qui paye. C'est lui qui a payé, ne t'inquiétez pas. Mais si tu refuses que celui qui paye, bon, ben, tant pis que tu veux, je dis. Alors, on va pas t'obliger, hein. Alors, donc, deuxième étape de l'amour, je regarde. Et comme je regarde, vous voyez, je fais jouer ma liberté pour la première fois. Je vais en faire quoi ? Ah ! Eh bien, non seulement je suis heureux de vivre cette espèce de grande dépendance affective, et puis de voir celui qui m'attire, donc de l'objectiver, de contempler, mais en plus, je m'y investis. Et je m'y investis, premièrement, en transformant cette attraction, le vécu de l'attraction, en vécu d'intention. Le bien est transformé, ce que dit Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, le bien est transformé en fin. Ça veut dire que l'autre qui m'attire, qu'il a en ce moment, qui m'attire en ce moment, je le vois, j'en ai de la gratitude, je me laisse l'aimer, mais mon bien, je décide qu'il devient ma fin. Non seulement il m'attire, mais je choisis, je veux qu'il soit la finalité de toute ma vie. Et alors, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle l'intention de vie. Vous voyez ? J'ai l'intention de tout donner, d'être relatif à lui, jusque sur le point de vue spirituel, donc le point de vue de l'être, donc le point de vue de la permanence. Et donc de subsister dans l'amour. Voilà où joue ma liberté, c'est que mon bien, il m'attire actuellement, et bien, je me plante dans l'amour, je choisis l'amour. Et si je choisis l'amour, nécessairement, le bien se transforme en fin, il devient ma finalité. Et je le choisis comme ma fin, c'est l'intention, j'ai l'intention de donner toute ma vie. C'est pas parce que j'ai l'intention de l'aimer, du reste, que ça y est, c'est fini. J'ai l'intention de l'aimer, les mecs. Alors, tu vois, ça ne suffit pas. Je sentais bien qu'il y aura une deuxième acte très important du point de vue de la liberté qui va jouer dans l'ordre affectif. Mais ici, premièrement, accepter lucidement que je veux, j'aime, que celui que j'aime, je l'aime de manière à ce que c'est celui qui finalise toute ma vie. C'est pas moi qui finalise ma vie, c'est lui qui finalise toute ma vie. Le but de ma vie, c'est pas moi. Bon, ben, si moi je crève, je m'en fiche du moment que lui est là. Donc je vois bien que c'est pas moi à la fin, mais c'est lui qui est là. Et je suis à l'avance heureux de l'aimer, c'est-à-dire que ce soit lui qui prenne toujours la priorité. Et je dépends de lui. C'est pas lui qui dépend de moi. C'est ma part. Ensuite, la quatrième étape, c'est de dire, ben d'accord, je connais par exemple un ami, il disait, il est tombé amoureux d'une de mes amies, qui était un peu poupiasse, elle était grosse, moi je l'aimais bien, elle était très vivante et tout ça. Il dit, amoureux, il s'est attiré, il dit, intention de vie, et il a dit, bon, il faudrait quand même aussi que ça marche entre nous. Alors d'abord, il a commencé à s'entretenir avec elle, etc. Et puis, il lui a proposé de faire un régime amaigrissant. Quand, un an après, j'ai vu la fille à mon mariage, je ne l'ai pas reconnue. Elle était plus maigre que toi, disons. Wow. Extraordinaire. Donc, vous voyez, la phase suivante, c'est de chercher quels sont les meilleurs moyens, n'est-ce pas, quels sont les meilleurs moyens pour faire que je puisse atteindre cette fin dans son intention définitive. Donc, je vais chercher des conseils. Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir obtenir un commerce d'amour avec cette personne que j'aime? Eh bien, je ne sais pas, je vais passer par sa copine que je connais bien, c'est ma cousine. C'est ta copine, ça va, je vais passer par une petite stratégie. Enfin, je sais pas, je vais demander conseil à mon père. Mon père est un gros futé dans ce domaine. Il va me dire, donner de bons conseils. Je vais aller voir le père de Monténard à Paris, si je fais des camps de colonies avec le père de Monténard. Le père de Monténard raffole de ça. Il me donne toujours des bons conseils. Et les bons conseils qu'il donne sont si bons qu'en général, ça se termine par le mariage dans l'année. Enfin, c'est pratiquement systématique avec le père de Monténard. N'est-ce pas? C'est merveilleux. Il a dû faire à peu près quelques milliers de mariages. Mais n'allez pas voir le père Patrick, lui, il vous flanquera en héritage. Vous voyez, là, il y a un problème. Ce qui se pose, c'est que vous devez choisir les meilleurs moyens. Il faut demander conseil. Vous, l'amour, dès que vous êtes dans cette espèce de totale dépendance, vous êtes désarmé. Forcément. Il y a un moment où on est désarmé. Et lorsque vous aimez, vous êtes totalement engagé dans l'amour, si vous n'éprouvez pas ces moments où vous êtes désarmé, c'est ennuyeux. C'est très bon si vous êtes désarmé. Vous êtes désarmé. Vous savez, il y a un désarmement de plus en plus grand avec le temps. Et c'est à des niveaux différents que va se situer le fameux désarmement. On est désarmé. Alors du coup, on demande conseil. C'est curieux parce que si on aime vraiment, si on n'aime pas, on ne demande même pas conseil. Mais si on aime, on va demander conseil. On est désarmé, on demande conseil. Ça. Et si on demande conseil, et puis on les suit. On essaye de choisir. Le conseil, c'est très important. Vous voyez, il y a l'autre qui m'attire. Il y a moi qui suis ici, l'unité n'est pas faite, mais j'ai l'intention de faire cette unité. Quels sont les moyens? Quels sont les meilleurs moyens? J'ai un faisceau de moyens, je ne sais pas lequel choisir pour arriver à lui. C'est une espèce de labyrinthe invraisemblable, il faut que je fasse la bonne entrée pour arriver à l'unité avec lui. Quelle est la bonne entrée? Vous voyez? Moi, je vois des murs. Je ne sais pas. Alors, mais seulement celui qui est un petit peu au-dessus dit... Tiens, tu as l'unité entre toi et toi là-bas, ça sera là, parce que c'est telle ouverture, telle ouverture. Prends donc ce chemin-là. Tu le prends, tu vois. Et le conseil, tu peux demander conseil aux Saint-Esprit, tu peux demander conseil à des gens qui ont de l'expérience, qui sont futés, qui sont malins, à des gens qui t'aiment, à des gens, etc., qui ont de la sagesse, à des gens, enfin, et surtout, et qui ont de la prudence. Et c'est pourquoi quelqu'un qui méprise la prudence finira toujours par l'échec dans l'ordre de l'amour. Parce que que la prudence donne ce calme, cette confiance et cette sécurité pour choisir le moyen qui permet le bon moyen. Bon, ça va. Autrement dit, vous voyez bien qu'il faut savoir faire confiance à d'autres que celui que vous aimez et à d'autres que vous-même. Vous voyez, ça appartient à l'amour pour pouvoir rejoindre. C'est toujours l'autre, hein, l'amour. Ensuite, eh bien, vous avez, du coup, vous vous dites, bon, puisqu'on m'a donné tous ces conseils, n'est-ce pas, que vous ayez, conseillé ou que vous, que vous pensiez que le meilleur moyen, ce soit une stratégie enveloppante, très bien, plutôt que d'aller directement à l'attaque, hein. Bon, on dit, bon, mais très bien, le meilleur moyen, c'est de prendre ma moto, puis de proposer de faire une petite balade avec, derrière moi sur ma moto. Bon. Alors, on ira à la plage comme ça. Sympathique, quand même. Bon, eh ben, peut-être que ce n'était pas le meilleur moyen. La preuve, c'est que ça n'a pas marché. Bon, voilà. Alors, ou bien alors, une stratégie enveloppante. Ou alors, il y a tout un tas d'autres choses. Une autre stratégie, ça peut très bien être de prier. Il y en a d'autres qui vont prendre comme meilleur moyen, ils vont aller voir un sorcier pour qu'il fasse un envoûtement d'union affective. Bon, en fait, c'est autre chose. Alors, enfin bref. Donc, j'ai appris ce moyen. Il faut choisir le meilleur moyen. Et donc, le stade, ensuite, si vous voulez vraiment, non seulement demander conseil, c'est bien, ça prouve que vous aimez, mais il faut évidemment aller un petit peu plus loin, et il faut du coup prendre concrètement ce conseil. Alors là, c'est quand on dit que l'amour est jugé en fonction des actes, c'est là. C'est ici, vous voyez. Le premier acte, c'est un acte d'intention, mais vous savez bien, l'intention ne fait pas tout. C'est très bien, attention, c'est très nécessaire, mais ce qui compte, c'est les actes. Et les actes, c'est le choix des meilleurs moyens. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui croient qu'ils aiment à fond quelqu'un, et puis qui vont choisir le moyen qu'il ne faut pas. C'est tout simplement le signe qu'ils ne l'aiment pas. Mais si je l'aime, non. Parce qu'il y a tout un truc, hein. En réalité, s'ils choisissent le meilleur moyen, ça veut dire qu'en réalité, ils sont encore engloutis en eux-mêmes, vous voyez, et qu'ils choisissent le moyen, parce que, vous voyez, dès que vous aimez, il y a une lucidité. Hein. Et donc, si vous choisissez un moyen plutôt qu'un autre, si vous choisissez un moyen, vous voyez, qui n'aboutit pas, ça prouve que c'est un moyen que vous avez choisi par rapport à vous-même. Et donc, votre fin, c'était encore vous-même. Et ce qui vous attirait, c'était rester vous-même. Donc, vous ne l'aimiez pas, en fait. À travers cette espèce d'émotion que vous avez eue, c'était une émotion, au fond, j'allais dire, de masturbation émotive. C'est tout. Et il y a plusieurs manières de pratiquer la masturbation. Vous avez la masturbation psychologique, la masturbation émotive, la masturbation physique, la masturbation spirituelle. La masturbation spirituelle, c'est l'orgueil. La masturbation physique, je ne vous dirai pas. La masturbation psychologique, c'est les énergies repliées sur eux-mêmes. Et puis, enfin, la masturbation émotive, c'est celle que je vous dis ici. Je choisis le moyen qu'il ne faut pas. Ah, c'est curieux, ça. C'est pour ça que, vous voyez, il faut beaucoup demander conseil. Il y a une phase d'attente, une phase de douceur, de confiance, de patience, pour être sûr de prendre le moyen qui fait que je serai encore plus relatif à celui que j'aime. Parce que bien souvent, c'est les moyens qu'on choisit, c'est des moyens pour être un peu moins relatif. Ils me plaisent trop. Et en même temps, il ne faut pas que je sois complètement détruit. Et sinon, l'unité ne peut pas se faire. Alors, hein, allez, ça, donc demandez conseil. Et choisissez-le, faites-le, choisissez ce moyen-là. Écoute, tu l'écris, puis c'est tout, écris une carte postale pour la Pâque, tu vois. Pas plus de... ça marche pas toujours, mais... Bon, enfin, au moins, ça permet de voir... Bon, très bien, alors... Ensuite, vous avez, du coup, le moyen, vous comprenez que le moyen, c'est... Vous avez divers moyens de rejoindre l'autre, pour qu'il y ait ce contact. cette première unité, première étreinte, si c'est possible, n'est-ce pas? Alors du coup, ayant choisi le moyen est évidemment un moyen qui vous met en contact avec l'autre. C'est un moyen qui vous permet de le rejoindre. C'est un moyen qui vous permet de le rejoindre. Mais de le rejoindre de manière à ce que ce soit vraiment le lieu où vous pouvez l'accueillir et le lieu où il peut vous accueillir en lui. Le lieu en vous où vous pouvez l'accueillir et le lieu en lui où il peut vous accueillir. C'est ça. Et il faut trouver justement ce joint entre les deux. Une fois que vous avez vu... vous comprenez bien que si vous êtes trop en fonction de vous-même, vous ne voyez pas le lieu où il est disponible pour vous accueillir. Alors voyez ça. Il ne faut pas aller trop vite non plus. Et disons, si lui dit, oh là là, encore une camoureuse, pensez, alors non, mais si c'est sur autre chose, si t'as... bon. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc vous laissez le meilleur moyen. Vous le rejoignez dans un premier temps. Et bien, vous le rejoignez, ça y est. Vous vous engagez. Et vous voyez bien que dans l'amour, c'est l'engagement. Et c'est là où joue la deuxième moment de liberté, ce fameux acte. C'est quand je choisis ce moyen et je me donne à lui à travers ce moyen. Je m'excuse, c'est très philosophique ce que je dis là, en sens où vraiment je décompose. Mais j'espère que vous voyez quand même quoi le meilleur moyen. C'était qu'il va arriver, il va sortir du train, et je me jette sur lui comme si on s'était toujours connu, et je vais l'embrasser comme une folle. Je suis sûr que là, c'est le seul moyen de le faire tomber à terre. Je sais pas, moi. J'en sais rien, il y a mille moyens, si vous voulez. Bon, mais c'est pas facile, hein, parce qu'il faut le faire. Et je me donne, et vous comprenez, quand je me donne, aïe aïe aïe, pas si commode que ça. Si je me donne et puis que j'ai une petite retenue sur moi-même dans ce choix, où c'est lui que je choisis, bon, à travers ce moyen, mais je ne regarde plus le moyen du tout, c'est lui que je choisis, là, il n'y a plus de pluie. Et quand je le touche, là, il n'y a plus de pluie. Alors, à ce moment-là, si effectivement je l'ai fait à fond, il y a une espèce de joie. Il y a une espèce de joie qui apparaît, une espèce de surabondance du cœur. Il y a une espèce de cœur qui saigne, si vous voulez, de joie. De joie. Mon cœur qui s'ouvre, et puis il y a l'autre. La joie. Il y a une joie. Mais vous voyez qu'il faut reprendre à chaque fois. Un acte. Alors là, c'est une décomposition que je viens de vous faire. Et quand vous aimez quelqu'un, quand vous aimez Dieu, quand vous aimez celui que Dieu a mis à côté de vous, eh bien, vous devez faire des actes d'amour. L'amour qui, ici, est dans un processus de maturation, bien sûr, dans la longueur et dans le temps, je suis tout à fait d'accord, il y a quelque chose qui relève de la longueur, parce que toutes ces étapes vont se retrouver dans l'histoire de la maturation de l'amour mutuel, notamment si cet amour que je viens de vous décrire devient réciproque. Parce que là, ici, j'ai regardé une montée affective par rapport à quelqu'un qui n'est pas forcément en train de vous aimer. C'est vous qui aimez quelqu'un. C'est pas encore l'amitié. L'amitié, c'est la réciprocité. Ah, dans la réciprocité de l'amour, alors il faut à nouveau recommencer une nouvelle structure d'intériorité, qui sera aussi une intériorité affective, c'est l'intériorité de l'amour d'amitié, et le jeu de l'accueil et du don dans l'unité des deux. Avec la montée progressive des 33 degrés de l'amour. Je vous l'ai déjà fait ça. Vous voyez, c'est le deuxième aspect, deuxième volet. Mais vous voyez ici que cette montée, cette maturation, cette intensité, cette intégralité de la substance de l'unité des deux, qui prend de plus en plus de place en lui et en moi, de sorte que de plus en plus lui et moi disparaissent, et qu'il n'y a plus que l'unité des deux, au bout d'un certain temps. Et ça, c'est une autre montée. Mais en tout cas, lorsque vous aimez quelqu'un, vous devez, vous pouvez toujours
faire des actes d'amour. Et il faut que vous sachiez en pleine conscience qu'à chaque fois que vous faites un acte violent d'amour par rapport à quelqu'un que vous aimez, vous le réactualisez en le rechoisissant et en vous donnant, quoi qu'il arrive, aveuglément, de vous donner, quoi qu'il vous en coûte, à celui que vous aimez, ces sept étapes sont présentes dans l'acte d'amour. Dans l'acte d'amour, il y a une seule forme. Mais il y a ces sept, cette espèce de montée, cette ascension. C'est pourquoi dans l'acte d'amour, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un si vous ne renouvelez pas cet amour en faisant intérieurement dans votre cœur, dès qu'il est un peu blessé, ce choix où vous l'aimez de toutes vos forces, de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit, de tout votre être, et vous choisissez, c'est lui que je préfère, que je veux, que je donne à lui quoi qu'il arrive. Et si je ne fais pas ces actes continuels d'amour, mon amour ne parviendra pas à sa force, plénière, sa force suffisante pour pouvoir arriver jusqu'à son terme, c'est-à-dire à la joie. La joie, c'est quand l'amour a atteint son unité la plus totale et qu'il n'y a plus que lui et moi dans l'unité. Alors à ce moment-là, cette espèce de joie, cette jouissance, qu'il n'y a plus de conquête à faire et qu'il n'y a plus qu'à surabondance pour cette jouissance. Tant qu'il n'y a pas cette joie parfaite, je fais des actes d'amour. Humainement parlant, c'est humain, ça, vous voyez, c'est pas du tout. Eh bien, c'est pareil, évidemment, on fera pareil, bien sûr, au plan surnaturel. Au plan surnaturel de la charité, il faut renouveler ces actes d'amour surnaturels. Par rapport à un enfant, quand on a un petit enfant, on s'aperçoit, si on ne fait pas cela avec lui, vous vous apercevrez que, à partir du moment où vous serez très surpris que quand il aura 6 ans, quand il aura 12 ans, quand il aura 15 ans, que vous n'aimez pas votre gosse. Pourquoi? Parce que chaque fois, tous les jours, à chaque fois que vous le voyez, vous ne le choisissez pas. Il faut l'aimer. Et il faut faire des actes intérieurs d'amour. Vous voyez que c'est un autre, ce petit, qu'il vous dépasse, qui vous attire, qui est plus grand que vous. Vous lui avez donné la vie, vous avez donné votre vie. Et vous vous donnez à lui. Vous êtes relatif à lui. Et vous choisissez, vous êtes heureux qu'il soit plus grand que vous, qu'il vous dépasse, qu'il vous attire. Et donc, il faut le choisir. Je choisis mon fils. Je l'aime. Et il faut faire des actes intérieurs quand je le vois tous les jours. Si vous ne faites pas, quand il aura 15 ans, vous allez voir, hein, mes dents. Il y aura des problèmes, il risque d'y avoir des problèmes. Un père de famille, une mère de famille qui ont fait des actes d'amour au moins une fois par jour par rapport à chacun de leurs enfants, il n'y aura jamais de problème de complexe de castration. Croyez-moi bien. Jamais. Ça, Freud n'avait pas vu ça. Jamais, jamais. Il n'y aura pas de problème d'adolescence. Si, bon, il y aura des boutons. Mais affectivement, il n'y aura pas de problème. Vous voyez? Vous comprenez? Bon, est-ce que vous voyez à quel point cette montée de l'amour a quelque chose de si différent des deux premières? C'est vraiment une montée, mais cette montée, j'allais dire, est à la fois très longue et à la fois subite. C'est les deux en même temps. C'est ça qui est très curieux dans l'amour. Je ne sais pas comment vous dire. Enfin, vous voyez bien, de toute façon. Bon, si vous n'y arrivez pas, parce que moi, j'ai jamais aimé personne, personne ne m'a jamais attiré, alors à ce moment-là, je dis, bon, d'accord, fais de la métaphysique et tâche d'adorer. Hein.
ça te fait être un peu plus intelligent, comme ça tu vas sois contemplatif et tu vas t'apercevoir que tu vas trouver une autonomie dans l'ordre de la vie humaine, et du coup, tu vas t'arrêter, et si tu es contemplatif, tu seras sensible par rapport à l'attraction que tu éprouves par rapport à un autre. Et si tu ne l'éprouves pas du tout, ben, c'est ennuyeux, je veux dire. Hein. Attention, ce n'est pas parce que tu t'antiches de quelqu'un que ça veut dire que tu es contemplatif. Je n'ai pas dit ça. Parce que tu peux t'anticher de quelqu'un et c'est ici. C'est passionnel. À ce moment-là, c'est toi que tu aimes. Tu t'antiches de quelqu'un, une petite passion amoureuse. C'est que la passion amoureuse est à l'intérieur de l'âme et replie l'âme encore plus à l'intérieur d'elle-même. Mais le jour où t'es pas amoureux, tu laisses tomber, hein. Si je l'aime plus, alors. Je roule un peu loin un autre, puis c'est tout. Oui, bien, vous l'avez jamais aimé. C'est ici. C'est pas parce que tu t'entends de quelqu'un. Non, non, non. Si tu t'aperçois cette immense attraction très mystérieuse, bah, et que tu sais que ça implique pour toi, j'allais dire, comme une espèce de mort à toi-même, et que c'est ça que tu choisis, que tu acceptes, que tu veux, ou tu te donnes. Ah, oui, ça prouve qu'il y a eu un début de vie contemplative. Avant. Bon. La quatrième grande structure d'intériorité, je vais aller beaucoup plus vite parce que c'est l'heure du surplus, c'est l'art, l'artiste. Et puis bon, on aurait dû faire parler les artistes qui sont des spécialistes. Ici, nous avons deux personnes qui sont parties d'une école de philosophie de l'art et qui vont nous expliquer quelle est l'intériorité de l'artiste. Bon, l'intériorité de l'artiste. L'intériorité de l'artiste, c'est très. Bon, rapidement, parce que je vous l'ai déjà fait et je pense que pour vous c'est facile. C'est l'aspect qui est du cheval, l'autre qui est génial pour peindre, l'autre qui est génial pour faire du théâtre, enfin que sais-je, il y a toutes sortes de génies. Il y a des gens qui sont géniaux, tout le monde est génial, pas compliqué, tout le monde est génial. Tout le problème c'est de savoir quel est votre génie. Là où vous êtes génial, là où vous êtes extraordinairement extraordinaire, unique. Alors, vous êtes vraiment, pour faire des conférences, il est génial. Bon, pour faire de la cuisine, il est nul. Bon, vous voyez ? Bon, alors très bien. Alors vous voyez bien, la dimension générale qui est en vous. Comment est-ce que l'artiste commence à apparaître ? L'artiste commence à apparaître à partir du moment, vous voyez, je vous l'ai fait tout à l'heure, en disant, il peut commencer à apparaître, il n'a pas besoin de passer par ici. Hein. Vous voyez ? Donc ici, je remonte et je dis, ici, dans le stade numéro 2, la montée de l'intériorité de l'âme, vous vous trouvez à l'intérieur de vous quelque chose de plus profond que votre intériorité, cette espèce d'harmonie, cette espèce de beauté, vous voyez, cette espèce de magma extraordinaire du vivant qui est en vous, vous sentez qu'il y a quelque chose de beau et qui est grand, vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Eh bien, c'est ici que va, voilà, c'est d'ici que va éventuellement, habituellement, naître le point de vue de l'intériorité artistique. Donc, en général, vous voyez que dans la progression de la maturité de la personne humaine, 3 x 7, 21, dans son intériorité, plus je deviens sommaire au niveau d'une civilisation humaine, plus, j'allais dire, je vais être petit à petit obligé de ramener l'éducation, la civilisation, etc., et l'épanouissement de l'homme à des degrés rudimentaires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on propose à la jeunesse les grandes philosophies mordantes, c'est Nietzsche, voyez, intériorité artistique, et puis New Age. Hein. C'est pour ça, on va être réduit à ça. Parce que j'ai pas mal, en fait, peut-être à ça, je pense, moi. 6. Très intéressant, ça. En tout cas, L'intériorité artistique existe et elle est bonne parce que c'est une structure de base. Parce que c'est moi qui vis, et c'est moi qui contemple, et c'est moi qui aime. Alors, je vois à l'intérieur de moi, et je m'accepte, je suis heureux, je positive, n'est-ce pas ? Je positive, comme on dit. Les pensées positives. Et dans ces pensées positives, je vois que je suis un génie, n'est-ce pas ? C'est extraordinaire. Toutes les pensées négatives, etc., les grenouilles qui sont dans mon cerveau, je les prends et je les mets dans une cage. Et puis, il ne reste plus d'aspect positif. C'est l'inspiration qui apparaît. Il y a quelque chose de génial en moi. Premier stade, l'inspiration. Oh, c'est génial. Je suis sous le choc d'une émotion esthétique, de grandeur, de beauté, d'une inspiration. C'est une inspiration. Oh, je porte quelque chose en moi, c'est très très fort, c'est très fort. C'est très très fort ce que je porte en moi. Je veux le guérir. Je veux le guérir. L'artiste, ça c'est pas l'amour. Je veux guérir. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ne pensent qu'à ça. Je veux pouvoir te guérir, etc. C'est voyant. Enfin, laissons ces monstres de côté. Mais il y a d'autres sortes d'inspiration. L'inspiration esthétique. Parce que vous voyez, sentez bien que je veux le guérir. C'est une inspiration qui s'est tournée du côté de l'utilité. Tandis que l'inspiration artistique, c'est une inspiration vers la beauté, c'est esthétique. Une vraie dimension artistique.
Tu veux le guérir ?
Eh bien non, je viens de t'expliquer que c'était de l'inspiration à ramasser dans le point de vue de l'utilitaire. Donc il y avait une petite... C'est une dégradation. Oui, mais c'est une souffrance. Oui, c'est de l'intériorité. C'est pas mauvais. Mais c'est pas de la... Ça va ? C'est pas génial, voilà. C'est une dégradation du génie. Mais c'est bien, de vouloir guérir. Voilà. Donne du d'aspirine et puis c'est bon. Voilà. Non, je m'excuse, je te vois. Non, parce que j'essaie d'expliquer la théorie artistique qui est autre chose. Bon, je fais une petite parenthèse pour m'amuser, mais encore que je m'amuse. En plaçant mes billes quand même. Bon. Alors, voyez bien. Donc, c'est génial. Ce que je porte, c'est très fort. Vous voyez, le premier moment, quelqu'un qui n'est pas très disponible dans une gratuité par rapport à son aspiration, son aspiration ne sera jamais très gratuite du point de vue esthétique, de la grandeur, de la beauté. Il faut qu'il se sente de très fort, de la grandeur, de la beauté. Je porte une aspiration, ça me prend, je suis saisi par elle. C'est moi qui suis saisi, j'ai une inspiration. Génial. Il faut absolument que... Alors voilà, deuxième stade. Oui, c'est trop fort, vous comprenez ? Alors vous êtes obligé de passer à la montée suivante. Et donc je vais aller très rapidement, vous voyez bien, vous avez tout de suite le comment est-ce qu'on pourrait appeler ça ? Tout de suite, il faut absolument que ce que vous portez en vous, qui est si fort, il faut absolument que l'autre là, qui est lamentable, qui n'a pas cette inspiration, qui est nul, qui est malade, qui est là, il profite. Tout ce que vous portez en vous, vous allez l'inscrire dans la matière, enfin dans l'autre, quoi. L'autre, c'est une matière. Il n'a pas cette... La forme suprême, c'est quoi ? C'est votre inspiration, c'est votre génie. Lui, c'est un malade, bon, là, il n'a pas votre inspiration. Je veux lui apporter mon inspiration. Je fais un projet, vous voyez, dès que j'ai une inspiration, je veux l'inscrire dans un projet, je veux en faire quelque chose, je veux le manifester, je veux que ça soit connu, je veux le communiquer, je veux le manifester, je veux absolument donner ce message, et je veux que mon génie se commue. Parce que vous mettez Salvador Dali en mettant tous ses tableaux à la poubelle, il serait furieux, évidemment. Mais vous ne pouvez pas mettre la gare de Perpignan dans la poubelle. Ça, c'est le problème. Bon, très bien, puisque c'est la gare de Perpignan qui le chute intentionnel et universel de toute la culture artistique mondiale. C'est ce que j'ai prouvé moi-même dans mon dernier livre.
sur la structure architecturale universelle à dimension architectonique de la gare de Perpignan. Bon, alors, vous avez bien. Bon. Alors, allez voir comment ils étaient les publicités pour le chocolat Lorvin. Pourquoi est-ce que je parle là?
Oui, donc il faut un projet. Un projet, il faut un projet. Inscrire ce projet, il faut faire un projet. Bon, une fois que j'ai fait ce projet, eh bien évidemment, si je suis un bon artiste, eh bien évidemment, je ne suis pas là comme ça en disant, bon, ah, ouais, j'ai un projet. Bon, alors voyez bien, après le projet, eh bien, vous dites, mais oui, quand étant donné que votre génie, c'est pas seulement l'inspiration, votre génie, c'est aussi votre agilité, votre plus grande capacité, votre plus grande possibilité, votre plus grande agilité pour le traduire. Il y a des gens qui sont nuls pour traduire ce qu'ils portent en eux sous forme de peinture, d'autres qui sont nuls pour le transcrire sous mode poétique, d'autres nuls pour le transcrire, mais ils seraient très 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 forts pour le transcrire, par exemple, une fois je racontais, sous forme par exemple de fabriquer un parfum. Ce Mémanas, n'est-ce pas, quand je vous ai raconté peut-être une fois, je crois, comment il a fabriqué le parfum Byzance. Extraordinaire. Mais évidemment, toi, tu essaierais de traduire ton inspiration à travers un parfum, tu ne pourrais pas. D'accord? Donc, il y a plusieurs piliers à l'intériorité artistique. La première, c'est qu'il faut être très libre, très gratuit dans cette inspiration. Deuxièmement, très véhément pour le produire. Troisièmement, choisir et savoir et articuler et rendre de plus en plus souple les parties, la dimension, j'allais dire, artistique où je pourrais être le plus agile, le plus extraordinaire pour le produire, pour le faire passer, ce message, cette inspiration. Et enfin, je vais choisir donc les meilleurs moyens, je vais mettre à l'œuvre et je vais faire l'objet, le projet, je vais mettre l'œuvre, je vais fabriquer mon tableau. Je vais exécuter ma symphonie avec le plus grande intériorité possible, ça va passer. Vous voyez bien que ici, dans l'intériorité artistique, c'est le contraire, tout à fait, c'est encore tout à fait autre chose que l'amour, que le point de vue, c'est que là, puisque vous voyez bien qu'à partir d'une inspiration, quelque chose de très fort qui est dans votre intériorité de lumière, vous vous enfoncez encore plus dedans. Tandis qu'ici, à partir d'une inspiration qui est très forte, qui est en vous, eh bien, vous essayez de le sortir de vous pour l'inscrire dans la matière. L'éducation, je vous l'ai dit plusieurs fois, éduquer un gosse, c'est de l'art. Quelqu'un qui n'est pas artiste sera un très mauvais éducateur. Ah, ça, il faut quelquefois penser à ça. Et quand vous aimez quelqu'un, ce n'est pas de l'éducation. Mais il faut les deux. Mais c'est pas la même chose. Donc si vous confondez les deux, ça risque de faire des étincelles. Donc attention. Mais vous voyez bien, puisque dans l'amour, c'est l'autre qui détermine toute votre vie, tandis que dans l'art, c'est vous, votre inspiration, qui détermine toute la vie de l'autre. Hein? Puisque tu imposes ce que tu portes en toi sur l'autre. Qui réduit à l'état de matière. C'est une belle pâte à modeler. Hein? L'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure sur ma copine, on va lui faire un maigrissant, eh bien, il avait choisi un moyen artistique. Allez, tac, tu vas maigrir, parce que c'est mon inspiration à moi, que tu sois plus fluette, ça marche mieux. Et donc, voyez, il avait pris un moyen artistique comme étant le meilleur moyen pour réaliser l'unité. Ça peut arriver, du moment qu'il est lucide. Mais il faut être lucide. Je crois qu'il est très bien fait. Mais voyez donc que vous avez que ces quatre dimensions, j'allais dire, sont présentes, et puis elles vont s'associer comme des flammes, n'est-ce pas, d'un incendie, qui se mélangent pour faire un seul feu. Mais voyez bien que, il faut néanmoins que les quatre éléments soient quand même, aient chacun leur autonomie. Alors c'est pour ça que donc on les a distingués. Donc faites attention, essayez de réfléchir à ça un tout petit peu, et puis comme ça, on voit. Et on peut après analyser la culture occidentale moderne en fonction de ça, parce que ici, l'humanité dans son ensemble, vous le voyez bien, a régressé ici, en ce moment. Et ici, vous savez bien que la métaphysique, ça fait à peu près 20 ans que c'est fini pour la métaphysique dans la culture de l'humanité. Et pour l'amour,
Il y a un gros problème depuis un certain temps aussi. Alors voilà.